Bonjour et bienvenue pour ce numéro 27 de l'apéro des papas manchots. Et oui, on pourrait ironiser parce que c'est le seul podcast qui n'a jamais le même maître de cérémonie d'un épisode à l'autre. Ben pour cet épisode mensuel, j'ai l'occasion et j'ai eu l'opportunité d'être le maître de cérémonie. Donc je voulais remercier Deka pour m'avoir fait cette proposition et je suis très honoré de remplir cette mission. Et bien sûr, un apéro sans des pingouins, enfin ah, il faut pas que je dise pingouin, il faut que je dise manchot. Donc aujourd'hui, je suis accompagné par des manchots. Et le premier manchot, on pourrait l'appeler Patrice. Enfin, c'est ce que j'ai fait il y a longtemps, je l'ai appelé Patrice. Mais non, il s'appelle bien Fabrice, vous le connaissez. Donc on va accueillir Fabrice. Hello Fabrice.
Salut Cédric.
Je suis accompagné également d'un autre manchot. Il habite un peu plus loin, mais bon, pas trop loin non plus, dans le nord, là-haut. Dans le nord. C'est Monsieur John Claquette, c'est ça? Ah, on l'a perdu?
Non, on n'est pas dans BurgerTech. Bonjour à tous, ici la connexion fonctionne. Je suis pas dans le nord, moi, monsieur, c'est vous qui êtes dans le sud.
Ouais, je suis au sud de la Loire. Et toi, t'es au nord de la Loire.
À peu près.
Bon, donc dans ce nouvel numéro des Papas Manchots, on va parler de solutions Linux concernant nos solutions Linux. Qu'est-ce qu'on utilise comme distribution? Qu'est-ce qu'on a utilisé jusqu'à présent et vers quoi on va tendre? Mais avant d'enchaîner là-dessus, on va quand même faire un petit récap des épisodes précédents. Et dans l'épisode précédent, je crois que Deka a lancé un petit challenge. Non?
Ouais, il avait
Ouais.
mis en jeu un Raspberry Pi pour le 1000e commentaire. Alors
Et
moi,
je...
j'avais un petit doute sur les 1000, donc on était descendu à 100 et on a presque atteint l'objectif puisqu'on en a eu 9.
9.
9, dont un de moi, un de Morgane et Pebelfon qui nous en a fait deux.
C'est
Et
ça.
à la fin, deux de Cédric. Donc,
Oui, et
comme on peut
dont
dire qu'il...
le dernier disait, attention, voici le 1000e commentaire. Donc je crois qu'on a rempli la mission allègrement.
Donc a priori on a une petite dizaine d'auditeurs et puis le reste bah, c'est des vrais manchots, ils savent pas taper sur un clavier.
Ou alors on a énormément de machines à nous neuf.
Oui c'est possible. Donc on va quand même faire un petit tour des commentaires qui ne sont pas des nôtres. On va remercier Pebelfon qui nous fait régulièrement des petits retours sur le Twitter ou sur le blog. Il y a un nouvel auditeur, enfin un auditeur qui s'était jamais présenté et qui a même signé Oiseuf, donc qui nous a écoutés jusqu'au bout. Donc
Jusqu'au bout.
c'est
Non,
ouais.
oui, mais ça s'écrit pas comme ça, Oiseuf.
Non, mais c'est pas grave. Phonétiquement, c'est bon. Donc on remercie Roi de la Frite qui dit qu'il nous fait un petit coucou d'un auditeur de la masse silencieuse qui nous écoute généralement en vélo ou en voiture ou quand il fait la voiture, quand il fait la cuisine. Donc il a rarement l'occasion de nous répondre en direct. Mais là, il a pris
Le
son
temps.
courage à deux mains pour
Ouais.
le faire.
Remarque, il y en a qui nous écoutent en faisant du pain aussi, hein.
Effectivement, aussi, ça peut arriver. Et puis il y a Z6PO qui est un général, enfin un habitué aussi, qui nous a fait le 6e commentaire. Et Michael64, celui-là, non, c'est un nouveau aussi, peut-être. En avant vers les 1000 commentaires, enfin peut-être. Peut-être. Donc on va
Il y en a
remettre
d'autres
un.
qui nous écoutent en étant dans les miches, mais ils font pas de pain.
Ouais, effectivement,
Bonne
puisque.
Saint-Valentin.
Oui, on va
Et
souhaiter une
bonne
bonne
Saint-Valentin.
Saint-Valentin à Morgane, qui n'est pas là parce que bah il s'occupe de sa voisine en Argentine.
Normalement, il doit nous enregistrer une petite capsule audio. Donc, pour vous, chers auditeurs, vous allez entendre Morgane comme s'il était avec nous et sa voisine.
Est-ce que ce sera une sextape?
Ah, ça,
il
le
faut vraiment qu'il
rabâche.
fasse une sextape. Hein. Depuis le temps qu'il nous en parle.
Et attention, hein, la sextape sera envoyée que sur Discord. Les autres, voilà, vous savez ce que vous devez faire. Venir sur Discord. Et
Bon.
on activera un canal précis. Il faudra déjà avoir envoyé quelques messages pour pouvoir accéder à cette partie du canal.
Bon, quand même des réactions sur le précédent épisode. Notamment, je crois que c'est Fabrice qui avait parlé de Wiko. Et ah non, c'était toi, John. Ça t'a marqué le fait que je dénigre un petit peu Wiko. Mais t'avais pas su pourquoi.
Alors, on avait parlé des marques,
premier prix.
Des premiers prix, et je crois que Deka avait eu une mauvaise expérience.
Oui.
Et il me semblait que tu en avais parlé aussi de mauvaise expérience avec Wiko.
Voilà.
Moi, j'ai rien contre Wiko, hein, à part qu'ils rebootent sans cesse quand on leur envoie un message précis. Sinon, ça va. Hein.
Bah, John, s'il te plaît. Hein. Il faut te calmer.
Mais du coup, on n'a pas très entendu.
Ah, pardon.
Ouais, je crois que t'as baissé le son de tes messages et pas de ta voix.
Ah. Voilà.
Que je me suis bien fait compris.
C'est mieux comme ça.
Oui, c'est mieux. Encore un tout petit peu plus fort.
Oui, chef.
Bon, d'accord. Bon, bah, tu sais quoi? On va annoncer clairement.
Courage! Personne n'aime les loupards effarouchés. Allez, approchez! Plus vite!
Donc oui, j'ai essayé dans ma jeunesse Wiko. D'ailleurs, c'est les premiers téléphones portables que j'ai utilisés quand je suis passé sur Android. Avant, j'étais sur du Windows Phone qui m'avait été prêté par ma boîte. Donc je ne connaissais pas Android, donc j'ai commencé à essayer via Wiko. L'avantage, c'est que c'est des téléphones en effet pas trop chers, qui sont relativement accessibles et qui paraissent très bien. J'en étais très content, surtout à l'époque, les iPhones coûtaient déjà 400 €. Donc entre un téléphone à 100 et l'autre à 400 voire 600, voilà, le choix était vite fait. Et en fait, j'ai très vite déchanté. J'en ai eu plusieurs. Hein. J'ai eu le Sync, j'ai eu le 5, le King. Enfin voilà, j'en ai eu 2-3. Et alors systématiquement, j'ai eu des problèmes avec le GPS. Alors j'utilise énormément Waze. Donc j'ai eu des problèmes avec le GPS. Concrètement, le GPS me perdait toujours. Le signal GPS n'était jamais présent. Alors on va dire oui, c'est factuel, blablabla, bla bla, bon pourquoi pas. Mais ce qui m'a en fait vraiment coupé la chic et dire c'est bon, j'arrête Wiko, c'est le fameux Google Authenticator, ce que vous connaissez.
OTP, oui.
Ouais, c'est le calcul de l'OTP. En fait, c'est la double authentification. Vous saisissez login mot de passe et puis derrière, on vous demande un code complémentaire. Donc, soit vous le recevez par SMS, soit vous le faites, entre guillemets, calculer par une application qui est basée sur l'heure, etc. Et ben ça, le calcul de Google Authenticator était faux avec les Wiko. Donc j'ai essayé de contacter le SAV Wiko en direct. Ils m'ont répondu texto. Il faut voir avec Google. Je fais non, là c'est bon, on va arrêter. Donc voilà, j'en ai eu ma claque et puis je suis parti ailleurs. Voilà. Donc voilà pourquoi j'aime pas du tout Wiko, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est de vendre, mais en fait, derrière, ils suivent pas leur produit. Ça manque de sérieux. Voilà, ça manque de sérieux. Okay. Voilà, donc ça, c'était mon petit retour sur la précédente émission. Bon, j'ai plein d'autres retours, mais on va pas faire toute l'émission sur... on va pas refaire l'émission précédente. Donc, on va enchaîner sur l'émission qui nous intéresse, à savoir nos distributions Linux, celles qu'on utilise hier, celle qu'on a utilisée hier et celle qu'on utilise aujourd'hui. Donc, on va parler de lignes de commande et de bureau. Ça vous vient?
Mm-hmm.
Eh ben, c'est parti.
Un petit jingle pour l'occasion?
Ah, bah, mince, je viens de le lancer au moment où tu parlais. Bon, attends, je vais en faire un autre. Sauf que j'en ai tellement, en fait, c'est plein de nouveaux jingles. Ah, ça y est, j'en ai un.
Alors, général!
Bon, on va commencer. Ben, on va commencer par le plus jeune, comme ça nous fera une petite histoire. Mr. John, raconte-nous ton histoire Linux. Comment ça s'est passé?
Alors, il faisait noir. Ouais. Je n'ai rien vu n'arriver. J'ai ramassé mon clavier par terre. S'en est suivi une longue douleur, une incompréhension, et tout de suite un chemin éclairé.
Ah, Linux.
J'ai éclairé. Avancé. Oui. En commençant par le bas-fond.
Ouais, c'est-à-dire.
C'est-à-dire, ça m'a permis de redémarrer un vieux PC que j'avais planté sous Windows. En dézippant une archive zip à la racine de mon disque dur, qui pour le démarrage n'avait pas apprécié. Je suis resté avec Ubuntu depuis. J'ai un une petite écartade avec mon Raspberry où j'ai utilisé de l'arc Linux. J'ai essayé du Debian pur.
Debian pur. Pourquoi tu dis Debian pur? Parce qu'il y a des versions pas pures.
T'as la Debian modifiée aussi, par exemple Ubuntu.
Ah oui, attends.
Et t'as la Debian.
On va pas parler de toutes les variantes, oui. Oui, mais d'accord, c'est Debian.
Je précise, il faut être précis.
Oui, Debian. Ok.
Et une Arch Linux.
Tu dis Arch ou Arch?
Non, là, j'avais envie de dire Arch.
D'accord.
T'es passé par tout ça, sérieux?
Parce que Articule.
Articule. Mais c'est archi bien, tout ça.
Eh oui. Ça fait donc le travail.
Ça fait combien de temps, là, que t'as basculé sous Linux?
Oh, presque 10, 11, 12 ans, à peu près, je pense.
D'accord. T'as eu un moment de flop. Tu utilises encore du Windows aujourd'hui ou plus du tout?
En VM.
En VM, d'accord.
Que pour laisser des commentaires sur les podcasts d'excellente qualité.
Sous iTunes.
Quelques petits jeux sympathiques. Sinon, non.
Je vois ce que tu veux
dire. Sinon, je fais tout sur Linux. Tout. Les morpions.
Ouais.
La géontologie. Non, t'as un pseudo pour aller signer sur iTunes. C'est la claquette dorée, c'est ça?
Oui, voilà.
Je t'ai reconnu, je t'ai démasqué.
Et pourquoi claquette dorée?
Je sais pas, vas-y.
Parce qu'elle est dorée.
Parce que le manchot doré. Le manchot doré, ça prête à confusion.
Ah oui, le manche doré, c'est ça?
Voilà.
Oh putain, c'est la loose.
Ouais, je l'ai pas celle-là.
C'est pas grave. 14 février. Et t'as basculé tout de suite sous Linux ou t'as gardé un moment, pendant ces 12 ans, t'as gardé un flottement entre Windows et Linux?
Oh, tu n'as pas écouté tous les épisodes de l'apéro des papas manchots?
Non,
alors.
J'ai pas été assidu, non. Non.
Alors effectivement, je restais peut-être une ou deux semaines, je m'en rappelle plus très bien. Enfin, c'était très court, en dual boot.
Ouais.
À l'époque, c'était Windows 7.
Ouais. C'était il y a pas si longtemps alors. Ouais.
Ouais. Et je suis resté deux semaines dessus. J'ai vu que je faisais plus rien sur le Windows.
D'accord.
Après, j'ai fait une install complète sur mon PC de Ubuntu.
D'accord.
Et je suis resté chez Ubuntu.
D'accord. T'as fait quelques
principalement,
essais.
Et j'ai fait des essais. J'ai essayé Fedora. J'ai essayé Archi Linux parce que c'est archi bien.
C'est archi... Ah bien, t'as bien retenu.
Ça c'est génial, ça.
Et puis vu que ça faisait donc le travail, et ben.
Ouais, t'as pas eu besoin de retourner sur Windows.
Ubuntu quand même.
D'accord. Non. Ubuntu.
Tu t'es resté dessus Ubuntu. Pour la facilité de, enfin comment dire, ouais, la facilité d'utilisation. Ou pour la communauté ou pour, enfin.
Pour la communauté.
D'accord. Mm-hmm.
Parce que du coup, j'ai eu le temps de... J'ai réappris à me servir d'un PC avec. Donc, je me suis attaché à celle-là. La communauté, elle est grande. Tu peux chercher n'importe où les vidéos. La plupart du temps, tu vas tomber sur un truc avec Ubuntu. Et, ouais, plus par petit coup de cœur, quand même. Parce que j'ai appris beaucoup de choses avec. Donc, je l'ai gardé. Ça m'empêche pas de créer des petites VM, tester d'autres distributions par-ci par-là, mais mon cœur me rappelle toujours le cercle, le grand cercle avec les trois petits cercles à côté, et qui fait ce bruit. Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu.
Non, mais il y a un moment, il faut arriver à se stabiliser aussi. Ça sert à rien de naviguer d'une distribution à l'autre.
Ah, c'est pas mal de voir quand même.
J'ai pas dit que c'était pas bien, mais
c'est pas parce que tu es au régime que tu ne peux pas regarder le menu.
Oui, mais généralement on dit ça pour autre chose, mais ok. Alors.
Oui, mais cette circonstance.
Oui, c'est vrai.
Cette circonstance aussi.
C'est vrai. D'accord.
Mais bon, tu peux rester avec ta danette, hein.
Oui, mais là c'est une private joke, ça.
Oui, parce que Cédric a pour repas ce soir simplement deux danettes.
C'est ça, deux potes danettes.
Voilà. Mais comme ça, il va pas trop scorer sur c'est quoi MyFitnessPal ou.
Ah, je le fais plus. En fait, c'est maintenant Twitter. J'annonce direct sur Twitter. Donc quand je suis obligé d'annoncer plus de kilos, ben ça fait un peu mal.
Mais au moins, tu peux vite les effacer.
C'est ce que je dis. Il y en a un qui me dit « Ah, c'est génial, t'as automatisé avec la balance. » Je fais « Non, non, ça, c'est purement à la main. » Il me fait « Mais pourquoi ?» Ben, comme ça, j'ai droit à l'oubli. Si j'oublie de noter, ben, voilà, c'est terminé. Non, Bon, on s'écarte.
Cette circonstance.
Oui.
On diverge.
Oh non, pas de mots.
C'est une circonstance aussi.
Bon, Windows. Donc d'accord, mais pourquoi être parti sur Linux d'ailleurs? Bon, c'est ok, il y a une communauté, mais c'est parce que tu avais envie d'aller plus loin que ce que te proposait Windows, ou
c'est parce que c'était l'aspect du Linux? C'est juste que j'en avais plein le cul des redémarrages intempestifs avec les mises à jour de Windows 7.
Ouais, mais ça c'est l'excuse facile. Ça. Ouais, mais ça c'est l'excuse facile.
Non,
ça.
Mais c'est la réalité des cas. Et ensuite, un ami avec qui je travaillais me dit, bah, tiens, écoute, t'as une tu peux changer et tout, tu peux installer Ubuntu, tu peux laisser en dual boot, donc tu pourras choisir au démarrage ce que tu veux, etc. Et puis il m'avait expliqué le côté un petit peu Jackie Tuning, on va dire. C'était avec Resistro qui est Cubase, non, comment il s'appelle le...
Ah oui, je vois de quoi tu veux parler.
Je vois pas du tout, là, je peux pas t'aider.
Si, pour c'est... faire les effets 3D, le
ah, carré... Ah oui, pas Cubase. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui.
Enfin, il y a Ease dedans.
Ouais.
Je l'ai installé, etc. Bon, maintenant, je le fais plus. Ouais. Je suis sous GNOME, mais...
ouais, j'avais bien aimé à l'époque. C'était stylé à l'époque pour montrer les bureaux...
Unity.
Qui... non, c'est pas ça.
Non, c'était pas Unity.
Non, mais c'était sur Unity.
Ah, d'accord.
Que je l'utilisais.
D'accord. Oui, il était avant. Hein. Il était avant Unity, hein, ce truc-là.
Oui, il était avant, mais oui, bureau 3D Linux, ça me dit quelque chose, je me souviens plus du nom, ouais.
Je suis en train de rechercher sur la doc discrètement.
Compiz.
Oui, voilà.
Compiz. Voilà, je savais qu'il y a un pisse dedans, et puis quelques cons aussi.
Surtout des cons.
C'est pas gentil, d'ailleurs. C'est très très bien. Et donc, j'ai essayé. Je me suis éclaté, j'ai vu les effets, le fait qu'on pouvait annoter directement sur le fond d'écran, on pouvait annoter des choses avec justement dans les effets de Compiz, on pouvait mettre des lettres en feu, tout.
Oh, pour la classe.
Notre prise rapide sur les prises d'écran, etc., les imprimés écran.
Mm-hmm.
Et voilà. Après, j'ai regardé tout ce qui se faisait.
Aujourd'hui, on peut dire ton bureau principal, c'est quoi? C'est le bureau. Donc aujourd'hui, on a le choix entre KDE, GNOME, ça c'est les plus connus. Unity qui est laissé tomber, qui était un dérivé de GNOME d'ailleurs, je crois, de mémoire. Mm-hmm. Tu utilises quoi aujourd'hui comme bureau?
J'utilise un bureau en acajou, lustré par mes soins.
John,
avec un peu de rouge de noyer pour mes fêtes.
John, lève les yeux et regarde ton bureau écran.
Ah, pardon, je n'avais pas vu. Mes excuses, c'est la Saint-Valentin. C'est du GNOME Shell.
D'accord, t'es un GNOME. T'es un GNOME.
En 3.0.
T'as suivi. T'as suivi Ubuntu avec ses différentes évolutions. Au début, je suppose que t'étais en GNOME 2 au départ, je suppose.
Non.
Non.
Non, non. C'était déjà passé de Unity. Après, quand la 18.0, non.
Quand t'es arrivé, c'était déjà Unity.
Quand je suis arrivé, c'était Unity.
D'accord.
Et demain, c'était avec la 11.04.
D'accord.
Ouais. D'accord. 2011, on est en
2019. Bonne année.
Ouais.
Ça fait donc pas 12 ans que t'es.
Ouais, 7 ans. Je sais pas, j'ai des problèmes avec le temps, tout ça.
T'as quel âge déjà?
Ça, je sais.
Ah. Unity est sorti en juin 2010.
Ouais, bah ça devait être ça. Parce que c'était, j'ai essayé avec la 11.04, après j'ai fait la 12.04, et la 14.04, attends, là on est en 18, jusqu'à la 16. Ouais, jusqu'à la 14, j'étais sur Unity. Après, à la 16, je suis passé, j'avais installé via, parce que c'était pas encore disponible avec l'ISO sur le site d'Ubuntu directement. Je suis passé par GNOME Shell en 16.04. Là, pareil et tout, j'ai utilisé, etc. Après, il y a eu juste un petit problème. Quand je suis repassé avec la nouvelle version à la 18.04, par rapport au dépôt, etc., vu que c'était une version non, comment on dit ça déjà?
Non officielle?
Pas officielle. Voilà, c'était une non officielle. Enfin, elle était pas disponible. Oui, si, c'est ça, non officielle. Et là, elle est repassée en officiel. Donc, du coup, avec la 18, je suis repassé. Je suis resté sous GNOME parce que j'aimais bien qu'on peut faire plein de choses intéressantes avec l'extension, le GNOME extension, là, le site web. On peut trouver plein de petites extensions pas mal pour faire du joli jeu tuning ou pas d'ailleurs.
D'accord.
On peut avoir la météo, savoir où en sont ses dockers.
Les maps, Google Maps, pour savoir où tu te situes.
Les maps, voilà. Non, ça va encore, je réussis. Les sensors, pour choisir la sortie son et l'entrée son, comme je fais là.
Ah oui, sound, avec ta clé input USB.
And output device chooser. Et voilà, on peut mettre caféine pour dire quand c'est le temps de faire une pause. Avec Arcos pour créer ses propres extensions, qui est pas mal.
Arcos, pour faire des extensions, c'est-à-dire...
Arcos, ouais. Ouais.
Je connais pas ça.
C'est une extension à télécharger donc sur le truc, et tu fais ta propre extension en sur du shell. Et lui, il s'occupe de l'intégrer directement.
D'accord.
À ton panneau GNOME. Donc du coup, tu peux te faire par exemple tes abonnements YouTube. Tu cliques sur le lien en haut de l'écran, là où il y a les extensions, et tu cliques, et par exemple, il va t'ouvrir directement ta page YouTube avec tes abonnements en cours. Ou par exemple, je sais pas, tu peux te faire ton système monitor. Bon, ça existe déjà en d'autres applications, mais tu peux le faire mettre dedans. Ouvrir une page Wikipédia, etc.
Tu programmes, donc derrière, tu programmes en shell et ça te le met dans la barre système, ouais. C'est ça?
Ouais.
D'accord.
Bah d'ailleurs, je peux le mettre dans les notes parce que c'est une excellente extension.
Ah bah, je t'en prie, fais-toi plaisir. Ouais. Là, je suis allé sur la page GitHub de l'extension et ça a l'air pas mal, en effet, je connaissais pas. Ouais.
Là, c'est super, franchement. C'est facile à configurer en plus. T'as juste à remettre le point .sh, dossier où a été installé l'extension, donc dans ton dossier personnel. Donc point .config Argos / Argos, et t'as ton point .sh, et après tu te mets ton petit .sh dedans et Argos va te le mettre directement en haut dans la barre des tâches. Bah si, c'est la barre des tâches, j'ai un petit doute.
T'es un utilisateur je passe du coq à l'âne. T'es un utilisateur du terminal ou c'est pas quelque chose qui t'a tué?
Oui. Ouais. Ça fait un moment que j'en ai pas fait sur l'apéro, mais ouais, j'aime bien. C'est rapide.
En fait, c'est précis. En fait, je trouve que c'est précis. Peu. Ça demande de la précision et c'est ça qui est avantageux. Enfin, je sais pas quel est ton ressenti, mais moi, c'est pour ça que j'adore faire la ligne de commande. Ouais.
Bah pour CVLC par exemple. D'ailleurs, je suis un petit peu déçu parce que là où j'avais trouvé mes premiers sons avec Counter-Strike, et ben je les retrouve plus. Et quand j'ouvre mon terminal, ça fait plus What the hell is going on? Je suis déçu. Donc si toi, auditeur, tu as encore les sons disponibles de Counter-Strike en .ogg ou .mp3 que je puis lancer dans mon terminal, comme dire que c'est la merde. Et ben, je suis preneur pour mes liens.
En voiture.
Et vous lui donnez
Simone.
Directement. D'accord. Et t'avais lancé ça en CVLC. Alors CVLC, c'est la ligne de commande pour lancer une lecture généralement audio sans avoir l'interface VLC. C'est
et pas tu trop. Tu peux la mettre dans ton fichier de config BashRC pour ceux qui utilisent Bash ou ZHL pour ceux qui utilisent ZHL et ainsi de suite. Après, il suffit de le mettre dans les premières lignes du fichier .bash donc, ou .zsh. Et en avant Simone. Chaque fois que tu ouvres un calendrier. Chaque fois que tu ouvres le terminal, tu avais le droit à ton petit son.
Ta famille doit te le dire.
Bah non, parce que généralement tu l'ouvres une fois par jour et puis après tu restes connecté avec le terminal.
D'accord. Non, moi je me ferais un mal à plaisir de le fermer et de le réouvrir à chaque fois.
Non, parce qu'au bout d'un moment, je pense même que le serveur de son, il commence à en avoir marre, tu vois.
Il se suicide. Il se tue.
Pour le coup, c'est lui qui plante la bombe.
C'est ça, il fait un kill -9. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais au début en disant, je suis passé sous Linux parce que j'avais un vieux bousin qui commençait à vriller de la feuille, et donc j'ai voulu installer Linux. Et je pense que c'est l'erreur de... Enfin, tout le monde qui me parle de Linux, justement, ils disent, ah ouais, c'est génial parce que j'ai un vieux PC, et là, j'ai, oh merde, ça y est, on est mal barré.
Pourquoi ? Ah, il était pas si vieux que ça, le mien. Hein.
C'est non, mais c'est ce que t'as dit.
C'est ce que t'as juste dit. Juste foiré... Oui, j'avais un vieux et je l'ai ressuscité avec.
Oui, mais il faut pas dire vieux. Mais il faut dire que tu avais un PC qui était foiré avec Windows et tu l'as ressuscité. Il faut pas dire un vieux.
Ah oui, non, c'est bon, c'était pas un Commodore 64 que j'ai ravivé et que c'est devenu un netbook. Hein.
Non,
c'est
mais
pas
voilà,
devenu un Chromebook où on peut faire tourner des centaines d'extensions. Hein. On est clair là-dessus. Ça, c'est un vieux bousin. C'est resté un vieux bousin, sauf qu'il tournait plus sous Windows.
Ouais.
Que j'aurais pu m'en servir comme petit serveur, comme un NAS ou quelque chose comme ça, sauf qu'il était un poil trop gourmand en électricité pour servir de NAS.
D'accord.
Serveur de fichiers ou ce que vous voulez, qui n'a pas besoin d'utiliser une interface graphique.
Ouais.
Donc, mais il m'a servi quelques temps avec 2 gigas de RAM. Donc, autant dire que de toute façon, les dernières versions de Ubuntu ne tourneraient pas dessus.
D'accord. D'accord. Mais là où je voulais en revenir, c'est pas parce que vous avez un vieux bousin que vous êtes obligé d'installer un Linux. Linux, c'est comme Windows ou macOS, ça a besoin de ressources. Surtout si vous demandez une interface graphique. Donc arrêtez de me foutre des machines à 500 mégas en disant, tu crois qu'on peut installer Linux? Oui, vous pouvez installer Linux, mais la version d'il y a 15 ans. Ça marchera très bien, mais les versions récentes ont besoin forcément un peu plus de ressources. Certes, pas autant que Windows 10 ou Windows 7, mais ça demande quand même quelques ressources. Donc, par pitié, me ressortez pas vos i386 pour installer le dernier Ubuntu. Par pitié.
Par contre, ça peut très bien servir pour un petit serveur dans un coin de la maison pour héberger des fichiers en local.
Complètement. Et encore, je crois que même les Raspberry Pi sont un peu plus puissants que ça.
Oui, mais le Raspberry, tu dois l'acheter. Maintenant, si tu as un ordinateur...
Oh, non, on les offre sur la période des papas manchots. Il est encore temps de mettre 1000 commentaires.
Oui, mais celui qui a des cas, c'est à peu près le même que le mien. C'est un des premiers. Et pour un serveur de fichiers, vous aurez de meilleures performances avec un ancien ordinateur que vous possédez déjà à la maison, que vous pouvez installer. Et en plus, c'est vous qui l'avez fait.
Tu utilises encore Windows en dehors de la maison? Ça t'arrive de temps en temps de remettre les pieds dans Windows?
Bah oui, pour laisser des commentaires. Je l'utilise le Windows, surtout Windows 10.
D'accord.
Mais pour des tâches vraiment précises où j'ai pas le choix, clairement, bah iTunes.
D'accord.
Et puis pour voir ce que ça donne. Par exemple, j'ai voulu faire la petite blague d'installer Ubuntu dans ma VM sur mon Windows 10 qui était en VM. Après, je me suis dit non, on va...
Une VM qui lance une VM, qui lance une VM. Tu crois que la dernière VM, elle est capable de comprendre qu'elle est dans trois autres VM?
Bah, je pensais surtout qu'avec mes 8 gigas de RAM et mes 500 et quelques de mémoire vidéo, je pense que ça allait pas le faire.
Ok.
Déjà que j'ai que 128 mégas dédiés pour la carte vidéo sur ma VM, je peux te dire que le Windows 10, il rame du cul. Alors certes, il s'allume très rapidement, ça on peut pas le nier, mais c'est parce qu'il n'est jamais éteint, il est en veille.
D'accord. Oui, c'est comme Windows 10, tu crois que tu l'éteins, mais tu l'éteins jamais en fait.
Voilà, il faut aller dans les paramètres.
Bon, c'est pas une FAQ Windows 10. Tu voulais poser des questions, Fabrice, à John?
Non, c'est bon.
On a fait le tour.
Je vous écoute.
Religieusement, et ben maintenant c'est toi qui vas parler. D'où tu viens et qu'est-ce que tu fais en ce moment et à quoi tu aspires?
Ouf, tu veux parler des vieux souvenirs?
Bah écoute, généralement on est tous tombés dans Linux pour une raison ou pour une autre, ben c'est toujours intéressant de savoir pourquoi.
Alors, je me souviens plus exactement comment j'en ai entendu parler, mais c'était au siècle passé.
Bon, on va rassurer, c'était 1900 quelque chose.
Oui, on va dire 1999. Mais je me souviens que j'avais acheté un gros bouquin, Linux. Il y avait, je crois qu'il y avait Red Hat, Slackware, vraiment des vieilles versions que j'avais réussi à installer sur un 486.
D'accord. Ah oui, c'est vieux. Oh, punaise.
Avec la grosse croix qui arrive au début, c'était les vieux bureaux gnome ou je sais plus. Mais bon, c'était pas très utilisable, hein. On va dire que c'était vraiment de laisser.
Ouais.
Ensuite, j'avais acheté une Mandrake.
Ouais.
C'était, je pense, début des années 2000. J'avais réussi à l'installer, mais je sais pas, j'avais pas, il y avait pas ce qu'il fallait pour utiliser au quotidien, je pense. J'étais pas prêt, je pense.
Mais c'était compliqué au début. Alors, déjà, ça marchait par, enfin moi à l'époque où j'avais commencé, c'était par disquette.
Et ah non, c'était quand même des CD.
C'était des CD.
CD-ROM,
ouais. Et il y avait toujours ces notions de monter, je crois des, il fallait monter pour avoir des pilotes complémentaires. Enfin, c'était pas du plug and play hein, à l'époque.
Bah déjà on n'avait pas accès totalement, enfin au début moi j'avais pas, j'étais même pas connecté à internet hein.
Oui c'est vrai, oui, exact.
Donc ça c'était les premiers essais on va dire, et puis je me suis heurté à un problème, c'est que j'avais une carte vidéo pas compatible, donc dès que je faisais un essai ça foirait un peu. J'avais
d'accord.
Parce qu'il y avait, il y a toujours eu plus ou moins deux standards. Enfin, il y avait les Nvidia le plus connu, il y avait AMD, et il y a un moment où il y a Kiro, je sais pas si tu connaissais les cartes Kiro.
Oui, ça me dit quelque chose, oui.
C'est ouais. Sorti en 2001, je crois que quand j'ai acheté mon PC, c'était ça.
Ouais.
Et
c'est bah, un rapport avec les chiropracteurs.
Non, c'est avec un K, K-Y-R-O. Ouais, c'était c'était la révolution qui allait tout casser, mais en fait, ça a cassé tout seul. Et par contre, en 2006, j'ai acheté une Nvidia, et là, c'était possible d'installer Linux à la place de Windows. J'étais sous XP à l'époque.
D'accord.
Et là, j'ai essayé avec, j'avais quand même, plus ou moins comme objectif d'installer Debian parce que j'aimais bien la philosophie.
D'accord.
Mais j'ai mieux réussi avec Ubuntu. Donc c'était Dapper Drake 0606 je crois. Donc c'était en 2006. Je suis resté en dual boot un petit moment.
Et c'était quoi le, ça bootait sur quoi en priorité le boot si tu touches à rien?
Sur Linux.
Sur Linux, d'accord, très bien.
J'avais pris ce parti-là dès le début. Enfin, mon objectif, c'était d'y être depuis longtemps. Donc, quand j'ai réussi...
Ouais. C'était... Parce que je crois que l'erreur des débutants en dual boot, c'est de laisser Windows en boot par défaut. Et malheureusement, ben, on laisse booter sur Windows et en fait, on va jamais sur Linux.
Mm-mm. Ouais. Alors que là, moi, j'avais gardé en solution de soft. Si j'avais besoin d'un logiciel que j'utilisais avant ou pour les jeux, les choses comme ça. Et puis petit à petit, je sais plus, ma partition Windows elle commençait à merder de partout, il reconnaissait plus le clavier, la souris, je ne sais quoi. Et puis un jour, je l'ai foutu en l'air et puis c'était fini.
T'as arrêté la respiration artificielle.
Ouais, voilà. Donc, par contre, ouais, voilà, j'ai une VM qui traîne dans un coin. Si j'ai encore un vieux portable où il y a une partition Windows XP pour pas grand chose, mais voilà.
T'es resté sur Ubuntu depuis?
Non, déjà, j'avais l'objectif de passer sur Debian, donc j'avais quand même réussi peu de temps après, mais en venant d'Ubuntu, c'était quand même début, je sais plus c'était quand, c'était ouais entre 2006 et 2010, quand on ouvrait une Debian, c'était un peu austère par rapport à Ubuntu quand même, il y avait rien installé, c'était un peu triste.
Mm-hmm.
Et c'était un petit peu moins facile à installer au niveau des drivers et tout, c'était un peu moins convivial.
D'accord.
Il y avait toujours un peu plus de bidouille à faire, mais je sais que je traînais dans les forums et on m'avait dit t'inquiète pas, si tu creuses un peu, tu passeras à Debian. Et un moment fin des années 2010, quand Ubuntu a commencé à déconner un peu trop, à mettre un peu trop de style des trucs d'Amazon intégrés à la recherche, des choses comme ça, bon bah ça m'a un peu gonflé.
D'accord.
Et du coup, je suis passé à Debian et en fait, on peut avoir exactement les mêmes choses. C'est juste, voilà, il faut un petit peu plus savoir jouer de la ligne de commande, mais globalement, on a les mêmes choses.
Généralement, tu retrouves les mêmes paquets d'installation, oui.
Ouais. Après, il y a une question de mise à jour qui est différente parce que Ubuntu change tous les 6 mois.
Oui.
Donc ça, c'est quelque chose qui me gênait un peu. Enfin, après, on peut être sur la version LTS et rester pendant 2 ou 3 ans sur une version plus stable. Mais moi, je préfère être tranquille quand même pendant au moins 1 an voire deux. Et moi, le voilà, comment dire, les mises à jour Debian, ça me suffit tous les 2 ans. Après, on peut passer aussi par les paquets backport pour avoir des mises à jour sur les choses qui commencent à être un peu désuètes.
Faudra un jour qu'on me fasse un cours sur les sur ces paquets-là parce que j'ai absolument rien compris.
D'accord. on détaillera éventuellement après si ça t'intéresse.
Ouais.
Donc voilà. Après, pour l'instant, tout est Debian chez moi.
D'accord.
Ouais.
Quel bureau, GNOME, KDE?
Alors au départ j'étais sur GNOME, c'était GNOME 2 sur Ubuntu. Mm-hmm. Ensuite quand c'est passé à GNOME Shell ou Unity, là j'ai pas du tout accroché. J'ai essayé mais j'ai pas accroché.
C'était trop simpliste, trop... Non, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'a rebuté?
Au début c'est souvent un changement d'habitude. Mmh. C'est souvent ça qui gêne, sachant que ouais, enfin j'en ai gardé des parties. Maintenant moi je suis passé sur Cinnamon depuis je sais pas, au moins 4-5 ans je pense.
Sur Ubuntu il y a Cinnamon, c'est ça? Debian pardon.
Ouais, il est disponible pour Debian. Ouais.
D'accord.
Donc Cinnamon c'est une version de bureau qui a été développée par Mint, qui est une fille d'Ubuntu.
Oui.
Qui est, moi je trouve assez convivial et assez modulable.
D'accord.
De base, ça ressemble quand même assez bien à quelqu'un qui est habitué à Windows, va pas être dépaysé.
C'est marrant parce que tu dis que Unity te faisait trop de changements, mais en fait t'as pas adhéré concrètement. Mm-hmm. Que Cinnamon, ça te fait du changement, mais t'as adhéré.
Non. Enfin. C'est un peu particulier parce que finalement j'ai adapté mon Cinnamon pour le faire ressembler à du GNOME Shell, mais sans utiliser GNOME. J'ai vraiment fait ma tambouille parce que en fait au fur et à mesure il y avait sur Ubuntu il y avait un truc un peu embêtant à une période. Ils changeaient à chaque version, ils changeaient quelque chose. Par exemple, ils ont commencé à changer les boutons de place. Je sais pas si t'as vécu le truc. Bon, au début, ça m'a, non, ça, parce que je sais pas comment t'es habitué. Est-ce que c'est comme sur Windows avec des boutons à droite que tu utilises?
Je vous dirai après ma config.
Mais, donc sur Windows, les boutons sont à droite. Sur Mac, les boutons sont à gauche. Et à un moment, Ubuntu, ils ont passé les boutons à gauche parce qu'ils voulaient intégrer des choses dans la barre d'en haut.
D'accord.
Et au début j'ai pesté et puis finalement je m'y suis habitué, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus pratique de les avoir à gauche. Du coup je les ai gardés à gauche et du coup j'aime pas GNOME Shell parce qu'il t'empêche de les mettre à gauche. Toutes leurs fenêtres sont fabriquées pour que ce soit à droite et c'est toujours compliqué à changer. Donc voilà, j'ai un Cinnamon que j'ai bidouillé à ma sauce. Avec donc j'ai la barre de j'ai pas de barre de tâche, j'ai un dock sur le côté gauche, un peu comme dans GNOME Shell.
Oui.
J'ai en haut la barre d'activité avec la date, puis tous les pareils, hein, les petits applets qui vont bien pour avoir la mémoire utilisée, le débit, la température du processeur, enfin tout ce qu'on veut comme petits outils en haut à droite.
Mmh.
Et voilà, globalement, voilà ma config depuis quelques années.
D'accord. Plus de Windows, plus du tout.
Non, plus du tout, du tout, du tout. Ça fait un VM pour une VM pour aller sur iTunes, pour aller enregistrer son podcast ou éventuellement mettre un commentaire pour BurgerTech.
Pour mettre à jour les commentaires.
Ouais, ou aller voir les commentaires que John m'a mis sur mon podcast.
Ok. Pour la petite histoire, en fait, à la base, donc Linux est apparu en 92 et tout de suite, il y a eu des distributions qui sont apparues en 93 notamment et deux distributions. Il y a eu Debian et Slackware.
Mm-hmm.
Et venu légèrement plus tard Red Hat, ça devait être en 94 de mémoire, ouais, c'est ça, 94. Et là-dessus, ces trois distributions, en fait, on peut dire que c'est les distributions majeures. Alors qu'est-ce rappel vite fait, les distributions, c'est un ensemble entre bureau, package d'installation et ligne de commande. Voilà, c'est un mix des trois qui vous fait une distribution. Et donc là-dessus, ça a fait plein d'enfants. Donc on a parlé d'Ubuntu. Ubuntu est apparu en 2004, qui est un dérivé de Debian. Voilà.
Qui avait pour objectif de rendre plus attrayant, enfin plus convivial l'environnement, quoi.
Et ils ont légèrement réussi parce que on voit que Debian a fait plein de petits dans Ubuntu et Ubuntu a dû faire autant de petits que Debian à lui tout seul. Voilà, donc toutes les dérivées de Ubuntu sont déjà des dérivées de Debian. Donc moi, en fait, je me suis mis à Linux parce que ça m'intéressait, parce que j'avais des copains qui faisaient du Linux, qui étaient très doués d'ailleurs. Alors c'était plus de la ligne de commande qu'ils faisaient. Je t'ai pas demandé d'ailleurs, tu faisais pas de ligne de commande, tu fais de la ligne de commande.
Oui, oui, un petit peu, ouais.
Ouais, un petit peu.
Bah, au fur et à mesure, si, les installations de paquets, tout ça, je passe par la ligne de commande, si, et puis j'ai installé un serveur, donc uniquement ligne de commande.
D'accord.
Si, j'ai... Bah, ouais, plus pour s'amuser, pour découvrir des choses, mais pas... Ouais, voilà. Pas...
D'accord.
C'est pas non plus indispensable, mais les ordinateurs sont utilisés par toute la famille, ils ont pas besoin d'aller toucher à la ligne de commande pour que ça
fonctionne,
quoi. On est
d'accord. On est d'accord. Donc en fait, moi j'étais très impressionné par ces copains qui géraient la ligne de commande. À l'époque, Internet c'était les débuts, mais ils arrivaient à tout faire. Ça m'avait impressionné. Je dis bah ouais, moi ça m'intéresse, mais je sais pas trop comment faire. Donc j'ai fait des premiers essais dans les années 99-2000. À l'époque, c'était encore la Red Hat, elle était gratuite, distribuée en je sais pas combien de disquettes, et j'ai laissé tomber. Voilà, premier échec.
Est-ce que t'as dû essayer de compiler ton noyau toi-même?
Je sais plus, c'était il y a tellement longtemps, on faisait ça à 3h du matin, tu sais, le week-end quand on s'emmerdait dans les chambres d'étudiants. C'était d'ailleurs avec mon pote Sébastien. Et puis je me suis jamais remis, sauf en 2003, quand j'ai repris les études à Grenoble. Pareil, il y en a qui étaient sur Linux. Linux avait déjà un petit peu évolué. Alors je vérifie en même temps que je dise pas de bêtises, parce que des fois ma mémoire me joue des tours. Non, c'était plus tard, c'était en 2000, bougez pas, je remonte la date, en 2003. En 2003, donc j'ai des copains qui déjà utilisaient encore Linux, et à l'université, ben ouais, en plus j'étais en université informatique, donc forcément on en parle plus qu'ailleurs. Et ça m'avait titillé, et là j'ai fait le pas, j'ai installé une Fedora Core 3, et je l'avais mis en boot principal. Donc, pareil, dual boot, mais sauf que je l'avais mis en boot principal. Alors, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, on naviguait sur Internet, on regardait... Est-ce qu'on regardait des vidéos? C'était le début... Non, il n'y avait pas encore YouTube, donc on regardait pas de vidéos. On téléchargeait du MP3, on faisait des présentations en PowerPoint, donc il fallait trouver l'équivalent en version libre. Donc, c'était le début de OpenOffice.
Il y avait StarOffice.
Star Office était plus 99-2000, et ça a été vite remplacé par Open Office. Ouais. Alors moi, geek jusqu'au bout, je faisais pas mes présentations en libre, enfin je faisais pas mes présentations comme ça, je les faisais en CSS, enfin en HTML, en double écran. C'était, mais j'étais fier de moi. Et tout compte fait, j'ai commencé à mettre un pied dans Linux comme ça, et je faisais essentiellement du bureau. Donc GNOME Core 3, c'était du GNOME. Alors à l'époque, ça devait être du GNOME 2. J'avais essayé, fut un temps, KDE, mais ça m'avait pas plu parce que c'était trop bidouille. Tu pouvais faire trop de bidouillage à l'écran, ça m'intéressait pas. Droit au but.
Je crois que Mandrake c'était du KDE. Et j'ai jamais accroché moi à KDE. J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais je sais pas. Il y a un truc, c'est... Il y en a qui aiment bien, mais moi, j'ai jamais accroché.
Moi, ça, j'ai l'impression que ça fait trop bidouille. Tu peux trop bidouiller, tu peux trop paramétrer. Et non, moi, je veux que ce soit carré et qu'on aille droit au but. But du jeu, c'est pas de mettre une croix à droite ou à gauche et de, non, tu affiches ton programme et tu fais ce que t'as à faire avec ton programme. Bon. Donc ça, ouais, j'avais pas accroché avec KDE. Et donc là-dessus, donc bureau GNOME, ça m'allait bien, mais j'utilisais pas la ligne de commande, et d'ailleurs l'architecture Linux, je connaissais pas, enfin ça me parlait pas, je savais pas ce que c'était encore le swap de mémoire, et puis l'arborescence, ok oui, tes documents sont dans Home, très bien, ok, après var, je sais pas ce que c'est, opt non plus, enfin voilà, c'était un petit peu nébuleuse, mais bon, j'avais déjà mis un pied dedans, et en fait mon utilisation allait très bien. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en 2007, je suis rentré dans une boîte où on faisait de l'installation sous Windows et il y avait une possibilité également de faire des installs sous Linux. Au début, je laissais faire les copains et puis il y a un moment, je me suis dit, merde, je suis pas plus con que les autres, donc il va peut-être falloir que je m'y mette. Et vu que je gérais normalement des serveurs web, je me suis dit, mais pourquoi je monte pas mon propre serveur web? Ça me mettrait le pied à l'étrier. Et là, c'était parti, je suis rentré en ligne de commande et j'ai pu lâcher la ligne de commande. Et depuis, donc je suis resté sur Fedora, je suis toujours sur une Fedora aujourd'hui. Là, quand j'enregistre, je suis encore avec une Fedora. Et en parallèle, j'ai acheté un ordinateur portable et là, j'ai installé une Debian. Histoire d'être un petit peu maso. Je suis passé par Mint, mais j'ai pas accroché. En fait, j'ai eu des programmes qui fonctionnaient pas. Donc, mais voilà, aujourd'hui, je fais le grand écart entre Debian et Fedora. Et ça me va très bien. Je retrouve tout. Ouais, je commence à être doué maintenant. Ça me fait plaisir. J'utilise donc forcément maintenant c'est Gnome 3. Alors ce que j'aime bien dans Gnome 3, c'est que t'as pas la possibilité de foutre le bordel dans le bureau, sur le bureau.
Ouais, ça c'est un bon côté. Ouais.
Voilà. Si tu fous le bordel, ben c'est dans tes dossiers. Voilà. Mais pas sur le bureau. J'adore quand tu pointes la souris en haut à gauche où c'est marqué activité, où toutes tes fenêtres ouvertes se réunissent et tu peux choisir ta fenêtre. À tel point que des fois quand je suis au bureau professionnel, que je suis sous Windows, je mets la souris en gauche et là je fais non, ça marchera pas. Parce que voilà, au lieu de changer de fenêtre en faisant Alt Tab, je mets la souris en haut à gauche et après je choisis la fenêtre dans laquelle je veux aller. Ah ça, je suis adepte de ça. Je n'utilise pas le deck activité pour aller chercher mes activités, même les raccourcis. En fait, généralement, ce que je fais, et d'ailleurs, je me suis aperçu que je faisais ça également sous Windows, c'est que je tape la touche Windows pour activer le module recherche, et puis je tape directement le nom de programme. Par exemple, si je veux le bloc-notes, ben, je tape gédit et je fais entrée. Donc, je sais même pas où se cache gédit, je l'appelle en direct.
Et t'as pas un doc pour avoir les programmes principaux que tu utilises?
Si, j'ai le doc à gauche là, mais tu parles, j'ai les trois programmes, j'ai Firefox, le module logiciel et le gestionnaire de fichiers. Voilà, c'est tout.
D'accord.
Les autres programmes, je tape le nom.
Ouais, moi je fais pareil. Ouais, c'est vrai que c'est une habitude que j'ai prise.
Ouais. Puis en fait, c'est la façon de réfléchir. C'est, t'as besoin de taper une note. Ok, ben je lance gedit. Je sais que c'est gedit pour taper une note ou chercher un document. Je veux lancer même Firefox, même si j'ai le raccourci en haut à gauche. Et ben je fais Windows Fire. D'ailleurs, je commence à écrire Fire et puis je tape Entrée. Et donc c'est pour ça que j'adore aussi la ligne de commande parce que tu veux un programme, tu tapes le nom et je trouve que tu vas plus vite qu'aller chercher une ligne de commande. C'est plus rapide. Voilà, donc aujourd'hui ben, je suis aussi bien à l'aise avec le bureau qu'avec la ligne de commande. Je fais pas mal de choses en ligne de commande. D'ailleurs, je pars du principe, c'est ma philosophie, que tout ce que tu peux faire au clic avec la souris, tu peux le faire également en ligne de commande. Donc si je le fais avec la souris, je cherche le moyen de le reproduire en ligne de commande, ben, déjà pour me le mettre en mémo et pourquoi pas l'automatiser derrière. Voilà. Donc, j'ai plus de Windows mis à part au milieu professionnel. D'ailleurs, ça m'agace parce que maintenant, je commence à savoir faire plus de choses sur Linux que sur Windows. Et des fois, je dis, mais sous Linux, je ferais comme ça marcherait. Sous Windows, je dois faire comment? Voilà. J'en arrive à ce point aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à peu près à dire.
Ok. Et quelle différence t'as trouvé entre Fedora et Debian? Enfin, pourquoi tu préfères l'une ou pourquoi tu préfères l'autre? Enfin, quels sont les...
Alors, je ne vois pas de différence. Alors, mis à part le gestionnaire de paquets, sous Fedora, alors ça a été Yum, maintenant c'est DNF, que sous Debian, ça a été Aptitude, enfin APT. Après, le bureau, ben, c'est le même, c'est Gnome. Donc là, je vois pas de différence. Pourquoi j'ai voulu changer? Peut-être pour voir autre chose, mais en fait, concrètement, je me retrouve dans le même élément. J'ai installé Debian, il a marché avec ce que je faisais, donc j'avais aucun moyen j'avais aucune raison de le désinstaller. Alors, le problème de Fedora, c'est que tu changes de version à peu près tous les 6 mois aussi. C'est une rotation. En fait, Fedora, c'est les prémices de Red Hat, donc ils essayent plein de choses, ils essayent d'intégrer plein de choses, et une fois que c'est bien stabilisé, que c'est bien intégré, ils le reportent sur la version finale de Red Hat. Et l'objectif d'avoir Fedora, c'est de se tenir au courant des dernières nouveautés le plus vite possible. Ben, c'est comme ça que j'ai essayé les dernières versions d'Apache. C'est comme ça que j'ai réussi à voir qu'on était sous DNF. Donc maintenant, c'est marrant parce que chez les clients, des fois, je me trompe, je marque DNF. Ah non, c'est un Corium. D'accord. Ben, bientôt, ce sera DNF chez vous. Mais voilà, je suis tombé nu. Voilà, ça me permet de me tenir au courant. Alors, des fois, un peu trop vite. Oh merde, ils ont changé un truc. Comment on fait? Voilà. Je me retrouve bloqué. Donc, Debian, ça me permet de ralentir un petit peu la cadence. Si je suis vraiment bloqué sur Fedora, ben, je clique sur Debian. C'est très rare. Je crois que j'ai jamais fait ça, d'ailleurs, ouais. Après, il n'y a pas de différence. En fait, j'ai envie de dire, Debian, c'est un accident et je l'ai conservé. Voilà. Je l'ai conservé. Ça m'a permis de m'habituer à APT parce que c'est légèrement différent à DNF. Bon, c'est pas, je suis pas allé jusqu'au bout, mais ouais, c'est légèrement différent. Donc, ça m'a permis de mettre un pied dans l'aptitude. Mais après, non, j'ai retrouvé mes paquets, j'ai retrouvé mes logiciels. Voilà. Il n'y a pas.
Au niveau de la fraîcheur, des versions, etc., t'as des différences?
Oui, t'as des décalages des fois. T'as des décalages. Des fois, ça m'est arrivé récemment. Ça m'est arrivé récemment avec mon gestionnaire de compta. J'utilise Scrooge. Mm-hmm. Et le problème de Scrooge, désolé, c'est son nom, c'est que le fichier est formaté par rapport à la version. Et si tu rétrogrades, eh ben, il est pas capable de revenir en arrière. Et donc, je me suis retrouvé avec mon fichier de compta que je voulais utiliser sur Debian. Et ben, mince, on n'est pas dans la même version. Bon. Donc, il a fallu que je bidouille un peu pour ne plus avoir la version de dépôt, mais pour avoir une version que le développeur mettait à dispo en parallèle. Et voilà. Mais après, non, dans l'ensemble, on est à peu près... forcément, Fedora va légèrement plus vite, ils mettent à jour beaucoup plus vite, mais on arrive avec Debian, on va dire qu'il y a 6 mois, 1 an de retard, et puis j'arrive à rattraper le retard.
T'es en voilà. Quelle version, là, de Scrooge?
Là, je suis en 18 bêta.
D'accord.
Voilà. Ouais. C'est compilé par Emimine, j'ai mis une journée à compiler ce truc.
C'est la toute dernière version, là?
Oui, c'est oui, tout à fait, ouais. Ouais.
Et sinon, au niveau comment dire, disponibilité de paquets, c'est plus facile de trouver des points deb donc pour Debian ou des points c'est des RPM pour
oui.
Oui pour Fedora ouais.
Fedora ouais c'est des RPM. On a de la chance d'être sur des packages standards. Non, les paquets sont aussi bien compilés en RPM que en point deb. En plus, moi, je passe par les dépôts. Donc, généralement, les programmes, en tout cas, que j'ai utilisés. Alors, maintenant, il y a une tendance à ne plus utiliser les dépôts. Les gens préfèrent passer. Alors, c'est là où j'ai pas bien compris pourquoi ils voulaient plus packager ça en deb ou en RPM. Ils utilisent des, alors, soit ils disent, ben, vous faites un miroir du Git et puis vous compilez vous-même. Mm-hmm. Vous êtes gentils, les gars. Voilà. Make, ça veut dire quoi, make? Bon, mm-hmm. Bref. Et alors, déjà, synchroniser avec un Git. Hein. C'est voilà, il faut s'accrocher.
Pourquoi tu dis ça?
Ben parce que je me suis confronté à ça et que généralement pour eux ça coule de source parce que j'utilise Git dans tous les jours. Mais toi t'arrives et oui synchroniser Git mais ça veut dire quoi? Alors tu tapes des commandes au début, tu dis mais j'aimerais comprendre ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je suis en train de casser sur ma machine? Parce que c'est taper une commande, tu peux. taper une commande, ça y a pas de problème, mais savoir l'impact qu'il y a derrière, c'est un peu plus compliqué. Et donc ouais, déjà comprendre ce que c'est Git, après compiler. Alors là il te manque des dépôts, enfin il te manque des dépendances, etc. Tu dis ah oui les dépendances, ah oui c'est ça les dépendances. Oui, mm-hmm. C'est quand il manque un fichier, voilà.
Pour installer tous les paquets développeurs, il te manque toujours un truc.
C'est ça, les paquets développeurs. C'est ça. Et puis là, on te dit, oui, mais il vous manque KDE machin. Non, mais je suis sous GNOME. Bah oui, mais le programme, il marche avec l'interface graphique KDE. Oh, punaise. Mm-hmm. Scrooge, par exemple, voilà. Bon, bref. Mm-hmm. Donc, t'essayes de pas trop casser ta machine, et puis, ben, tu découvres, quoi, voilà. Puis à la fin, quand t'arrives à avoir un binaire qui marche, tu fais, ouais, ça marche. Bon, maintenant, je vais essayer de comprendre ce que j'ai fait. Et ouais, il y a aussi une autre manie maintenant. Alors j'ai pas bien compris. Enfin, j'ai plus d'exemples là en tête, mais ils te font passer par des canaux un peu bizarres, notamment PHP. Ah oui, du PHP pire. J'ai pas compris ce qu'on m'a fait faire là. Tu vois, je suis un peu largué aussi avec ça. J'ai voulu installer un complément. rapidement, c'était quoi, Sudo DNF, tiens, je l'ai sous les yeux. Je fais un petit peu de développement PHP, etc. Et je voulais rajouter un truc qui s'appelle PHP Beautifier, qui permet en fait de mettre en forme ton code PHP, avoir la bonne indentation, etc. Et là-dessus, au lieu de faire un DNF install, etc., ben non, là, on a voulu me faire passer par PHP peer pour installer cette dépendance. J'ai rien compris, voilà. On part dans des délires, enfin, je comprends pas en plus les avantages, les inconvénients, voilà. C'est un peu casse-pied. Il manque quelqu'un qui puisse vulgariser ça, puis expliquer. C'est pour ça, déjà, je renie pas les magazines ou les bouquins, parce que eux, ils ont tendance à remettre, voilà, les pieds sur terre en disant, ben, PHP peer permet de faire ça va chercher les dépôts comme ça, ça a tel avantage, etc. Donc c'est pour ça que je suis toujours abonné à des magazines ou des trucs comme ça, parce que ça me permet de me tenir au courant là-dessus.
Je peux proposer
une petite équivalent d'un petit magazine sur YouTube pour le PHP.
Ouais.
Vous avez vu ça, on fait du... qui s'appelle Graphicart.
Graphicart.
Alors, oui. Alors, ouais. Je suis en train de chercher. Ok.
Ok, voilà. Google.
Alexa, achète-moi une nouvelle paire de chaussettes. Voilà, je te l'ai mis en dessous de mon lien Argos.
Ouais. Donc, ce sera dans les notes de l'émission.
Graphicart. Ouais. Voilà.
D'accord. D'accord. Donc, c'est une vidéo. C'est quoi comme magazine? Donc, c'est un magazine vidéo, donc.
C'est ce qu'on appelle YouTube. Et en fait, ce monsieur.
Ah, mais c'est des images animées!
Voilà. Avec une parole. Et en fait, ils expliquent comment développer plusieurs choses. C'est un développeur. Donc, ouais. Qui fait des vidéos explications sur développeur. Ouais. Et bah là, la vidéo, en l'occurrence, c'est créer un bloc Gutenberg.
D'accord. Tu t'appuies sur ces vidéos déjà? Ah oui, ça, c'est du WordPress, d'accord. Tu t'es
là, appuyé. Ouais. Là, il y a WordPress. Ah oui, je t'ai donné le... Oh le boulet.
Non.
Sa vidéo d'avant.
Ouais.
La vidéo d'avant de GraphicArt était sur le PHP. Et en fait, il revient comme ça souvent, c'est tout ce qui est du dev, quoi. Donc là, il y a du WordPress. Avant, c'était... Elle ne veut pas s'activer en plus.
Oui, tu nous as passé un mauvais lien, mais je le corrigerai. Oui, mais ça va prendre le PHP en plusieurs chapitres. Ouais, je vois ça, d'accord.
Voilà, il y a du PHP, il y a du
Symfony, héberger son site, découvrir CSS. D'accord.
Okay, ah, t'as réussi pendant... à trouver la.
Ouais. Voilà.
C'est celle fort. D'avant où il y a les nombres. Justement, d'accord. J'avais vu sur Twitter que tu avais un problème avec PHP.
Ou si j'avais que ça comme problème. D'accord.
Je ne suis pas psychologue, monsieur. Je peux aider que sur certains points bien précis.
Je croyais que tu étais sexologue. Non, c'est pas ça.
Ça, faut être manchot.
Non, faut pas être manchot, justement.
Ben, si.
Bon.
Pour comprendre l'importance de la claquette dorée.
De la claquette dorée.
Voilà. Et là, par exemple, c'était chapitre dashboard. Et c'était il y a 7 heures. Avant, c'était compteur de vue en PHP, la session, les cookies, voilà.
D'accord.
Et sur son site, Oui, il y a un site avec un forum, etc. Et par contre, sur YouTube, ce qui est bien, c'est que c'est géré en plusieurs playlists. Donc, si c'est pour rapport à PHP, eh ben, il y a la playlist Apprendre PHP. Avec, à l'heure d'aujourd'hui, la mise à jour a été faite il y a 2 jours, il y a 31 vidéos sur PHP. Sur CSS, pareil, il y a 25 vidéos. Sur héberger son site sur Internet, il y a 4 vidéos.
Alors, je vais pas du tout critiquer GraphicArt parce que je connais pas du tout le contenu de ces vidéos. Le problème des tutos j'ai rencontré ça quand j'ai voulu monter des sites internet. La plupart des tutos que tu rencontres sur internet, c'est une catastrophe sans nom. Le problème, c'est que tu tombes sur des tutos qui font référence à des versions qui sont antidéluviennes.
Obsolètes.
Il y en a, c'est de la bidouille, mais la plus complète. On a l'impression qu'ils ont rien à foutre de comment fonctionne Linux. Et ouais, ouais, tu fais comme ça, ça marche. Non, mais c'est pas les règles de l'art. Voilà, il y a un truc qui s'appelle les règles de l'art. C'est qu'il y a une raison. Donc, c'est très compliqué de trouver les bons tutos qui te donnent des bons réflexes et des bonnes méthodes. Parce que c'est ça aussi, suivre un tuto, c'est avoir une bonne méthode. Tu fais pas tout dans n'importe quoi.
Tu regarderas la catégorie déboguer son code PHP ou le Ruby on Rails de Graphic Art et tu verras que justement c'est ça, selon les règles de l'art.
Voilà.
Alors bien sûr, il se base sur un, par exemple, on parlait du site web, et ben il va se baser sur un site, un, comment on appelle ça, une image, enfin l'aspect général du site particulier. Mmh. Par exemple, je sais pas comment expliquer, mais on va dire, par exemple, si tu veux faire pareil que YouTube, c'est-à-dire ta bande de menu à gauche qui se cache,
ouais,
qui s'active que quand tu appuies sur les trois barres, tes icônes en haut, etc., mais tes abonnements sur la droite, par exemple, mmh, t'expliques vraiment ça, les valeurs qui correspondent et pourquoi, mmh, mais le fait de, la façon qu'ils t'expliquent comment c'est agencé, etc., mmh, tu peux leur modifier.
D'accord.
C'est pas un tuto, par exemple.
Oui, ça te donne une méthode et après tu peux l'adapter.
Voilà, c'est vraiment adapté. Et c'est pas, tu fais ça, tu mets href YouTube, voilà.
Oui, il te donne les clés et après c'est à toi d'avancer, quoi.
Voilà. C'est pas juste un tuto comme il y a certains où tu ne peux que recopier l'exemple sans pas vraiment comprendre ce qui se passe. Quand ça fonctionne, quand les logiciels ou les systèmes de programmation sont pas obsolètes par rapport, sont pas d'anciennes versions.
Ouais.
Là, il t'explique vraiment les différences. Et par exemple, quand il y a des anciennes versions, il va te dire, attention, cette fonction est, disponible qu'à partir de, je sais pas moi, on va dire HTML 3 et CSS 1, mm-hmm, et voilà, et ainsi de suite. Et quand il sait qu'il y a certaines choses qui sont pour parler pour les langages, bah par exemple pour le CSS le nouveau là, mm-hmm, qui parlait de le 5, mm-hmm, si c'est ça, mm-hmm, et ben voilà, il y a ces fonctions là ne seront plus à faire comme ça, mais comme si.
D'accord. On dérive un peu, on va revenir sur les distributions. En effet, on a dérivé à cause des tutos. Mais justement, pourquoi vous avez choisi Ubuntu, Debian, alors qu'il y a 36 000 distributions à côté? Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait se lancer sur Linux, c'est compliqué de lui dire, bah, va là-dessus.
Ouais, mais c'est on pas... est là pour ça.
Bah déjà, moi je pense qu'il faut déjà essayer avec des versions à live pour savoir quelle. Avant de choisir une distribution, choisir l'environnement de bureau qui convient le mieux.
Oui, mais en fait, tu vas choisir entre KDE et GNOME.
Ouais, mais... ou Cinnamon, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Elementary OS qui a fait Pantheon, il y a les XFCE, il y a plein de versions.
Il y a la version trafiquée.
Oui, mais justement, où est-ce qu'on peut s'enseigner déjà? Où est-ce qu'on peut s'enseigner? Parce qu'aujourd'hui, on est un peu comme ça, le bec dans l'eau, en disant, mais merde, là, tu me cites des exemples, mais concrètement, où est-ce qu'on peut avoir la Bible en disant, ben oui, j'ai le choix entre quoi, concrètement, entre quoi et quoi? C'est compliqué, hein.
Bah ouais, non, c'est pas évident. Même en sachant, c'est pas évident. Sachant ouais. qu'il y a des distributions qui permettent d'accéder à plein de bureaux différents. Par exemple, mm-hmm, sur Ubuntu, par exemple, il y a plein de déclinaisons différentes. Mm-hmm. Sur Debian, en général, il y a quasiment tous les bureaux qui sont accessibles. Certaines distributions sont beaucoup plus spécialisées sur un bureau ou un autre, mmh, comme pardon, j'ai un problème de voix.
C'est l'extension.
Ouais. Comme Fedora par exemple qui est spécialisé avec GNOME.
Non, tu peux faire du multi-bureau. Enfin, ils préconisent le bureau par défaut qui est GNOME, mais t'as possibilité d'avoir un bureau KDE et puis Cinnamon, je crois, de mémoire. Je crois que j'ai une bêtise.
Sans tout péter?
Sans tout péter, en faisant un switch. Fedora KDE, GNOME, XFDE aussi, je crois, de mémoire. Attends, je suis en train de vérifier.
Et après, il y a LXDE, mais lui, il est mort.
Tu vois, oui, c'est ça, le Fedora Project propose XFCE, mais après, je sais pas... Attends, de manière officielle, Spin, ok. Alors, KDE Plasma, XFCE, LXQT, MatCompiz, Cinnamon, LXDE et SOS Desktop, voilà.
Non, je connais pas celui-là.
C'est plutôt pour l'éducation, parce que le leitmotiv de South Desktop, c'est découvrir, réfléchir, partager et apprendre, et c'est tout à base d'icônes, c'est un peu bizarre.
Ah si, je crois que je vois à peu près à quoi ça.
Voilà.
Ils ont pas fait des tablettes exprès avec cet environnement.
Si, je crois. Si, tout à fait. Alors, en plus, derrière, il y a une autre notion que j'ai vite découvert avec Fedora. Justement, c'est ce que je disais, c'est qu'on apprend vite qu'on va avoir des conneries plus tard avec Fedora. C'est les pilotes graphiques. X-Windows et le nouveau Wayland. C'est magnifique. Vous en avez entendu parler?
Bah, ça fait un petit moment que c'est dans les tuyaux, mais ça a du mal à...
Alors, c'est tellement...
Moi, je suis mis sous Wayland et j'ai pas de soucis.
Eh ben, fais une capture vidéo de ton écran.
C'est déjà fait.
T'as réussi?
Oui. Moi, j'ai pas de soucis. Hein. Moi, Ubuntu, elle roule.
T'es sûr que t'es en Wayland, t'es pas en X Windows?
Oui, parce que j'ai quelques petits problèmes, justement, dus à Wayland. Par rapport à Kodi ou... Mais question capture vidéo, il n'y a pas de souci. C'est juste par rapport au logiciel qui ne l'implémente pas.
Oui, qui ne l'implémente
certaines
pas.
Librairies de logiciels qui ne l'ont pas intégré.
Oui, mais c'est ce qui s'est passé avec Fedora. C'est qu'ils l'ont... Ouais, c'est ce qui s'est passé avec Fedora, c'est qu'ils l'ont poussé tellement vite que personne n'avait eu le temps de commencer à redévelopper les applications pour Wayland, ce qui fait que les captures d'écran, en fait, concrètement, Wayland isole la mémoire vidéo. Donc tout ce qui est logiciel de capture d'écran, s'ils sont pas prévus pour fonctionner avec Wayland, ben en fait, ils enregistrent en écran noir. Et quand tu fais des tutos, et ben tu te retrouves comme un con, tu fais mais merde, pourquoi j'enregistre en écran noir? Voilà. Et donc forcément, ben moi je l'ai désactivé, je suis reparti sur X Windows pour l'instant. Voilà.
Il y a juste un petit problème avec Wayland que j'ai remarqué moi.
Ouais.
C'est que quand j'éteins mon ordinateur, parce que oui, ça m'arrive, je m'aperçois qu'il a gardé en mémoire juste comme une capture d'écran justement. Par exemple, quand je joue à Counter-Strike, je revois le menu de Counter-Strike.
Ah, alors c'est la mémoire vidéo, c'est bizarre, ouais.
Alors, je sais pas si c'est par rapport à la mémoire vidéo, mais je soupçonne que ce soit par rapport à Wayland, parce qu'avant, ça me le faisait pas.
D'accord.
Quand je l'éteins, j'ai souvent la dernière image. C'est soit VLC, donc si j'ai regardé un film avec VLC, ouais. J'ai la,
ouais, la c'est première la mémoire image vidéo,
du début.
C'est la gestion de la mémoire vidéo qui fait ça.
Counter-Strike, et quelquefois, ça me le fait avec YouTube.
On a digressé encore. On en était au choix de la distribution. Ça part en live.
C'est simple, c'est Ubuntu.
Ben non, justement, parce que... Alors moi, je suis tombé sur un site qui s'appelle distrowatch.com, que je pense que vous connaissez.
Ouais, mais non, ça c'est juste par rapport au clic.
Moi, on demain, est d'accord. On c'est quand tu accèdes,
demain, on
il regarde
une distribution en... claquette dorée.
Oui, mais ça peut te donner...
J'engage deux, trois petits chinois qui cliquent toute la nuit. Et demain, c'est la plus téléchargée.
Ça peut te donner une idée. Par exemple, Manjaro, c'est une distribution, entre guillemets, les plus utilisées. On a Mint, on a Ubuntu, Debian, Fedora. Alors là, je dis les plus connus, hein, parce que Zorin, je connais pas.
Zorin OS. On en a déjà parlé de celle-là.
Je me souviens plus.
C'est quand on a plein les Zorin.
Zorin.
Ouais, c'est une copie de Windows. Enfin, ils ont essayé de reproduire du Windows sous Linux, quoi. Au niveau interface.
Il y avait quelqu'un qui avait essayé de lancer, mais c'était du Wine en fait. Ils avaient lancé une distribution Linux qui exécutait les programmes Windows. C'est comment elle s'appelait? J'ai oublié. X-Linux, non, je me souviens plus, bref.
Une vieille? Ouais, quelque chose de vieux? C'est un vieux?
Oui, quelque chose de vieux, mais je crois que ça a plus, d'ailleurs, ça vit plus maintenant.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Mais je me souviens plus, bref. Et voilà. Et donc, ce site, en fait,
c'est permet... C'est à cause du wine.
Peut-être, il y avait trop de rouge dedans. Et en fait, c'est, ce site, bon, voilà, ce qui est marrant, c'est ce classement du top 50 des distributions, du top des distributions. Mais il permet également ben, d'annoncer les dernières versions des packages et également de faire une recherche, sur les distributions. Si on veut des bureaux GNOME, ben ça va nous filtrer toutes les distributions qui peuvent proposer du GNOME.
Ah, c'est là que tu voulais m'amener tout à l'heure.
Ben oui, voilà.
Ouais, mais alors, moi, je conseillerais pas ça à un débutant parce qu'il va être perdu.
Oui.
Déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un bureau GNOME. Il faut qu'il connaisse XFCE.
Il va avoir tellement de choix. Et après, il y a d'autres choses. Comme tout à l'heure, on parlait de la communauté. Mm-hmm. C'est aussi un point important à prendre en compte parce qu'on peut choisir la distribution parfaite avec le bureau qu'on veut, le gestionnaire de paquets qu'on veut, l'apparence qui nous paraît la mieux. Et puis en fait, c'est une toute petite distro qui est à peine maintenue avec deux mainteneurs qui sont espagnols. Ouais. Et si on a un problème dessus,
donc un en fin de vie parce qu'il a abusé sur la salle, ça.
Et du coup, on va avoir du mal à maintenir sa distribution à jour ou à simplement régler des problèmes.
Donc, alors, ce que je conseille également, c'est... alors, en effet, il y a la communauté. Communauté qui répond pas toujours présente non plus à cause des forums.
Oui, et puis voilà. Parfois, selon les communautés, il y en a qui sont plus axés utilisateurs avertis, on va dire,
oui.
Et d'autres qui sont très débutants friendly et qui vont accueillir quelqu'un qui va poser une question débile en lui disant bon bah écoute c'est simple, tu commences par faire ci, après ça, et puis à d'autres forums, on va dire bon bah t'as qu'à lire le manuel et puis tu te démerdes.
Et après, j'ai envie de dire, il y a la vraie vie après, c'est-à-dire vous avez vos connaissances, et si vous avez pas de connaissances, vous avez également des associations. C'est là où je voulais en venir.
Ah, vas-y, fais de la pub.
J'en ai parlé déjà à la base de l'install party. Hein.
Oui, c'est vrai. Je reviens toujours même. Non, mais en effet, il y a les associations Linux, enfin des associations pour promouvoir le libre un peu partout en France, qui permet justement de rencontrer des gens novices, mais également des gens aguerris, et qui vont même vous orienter sur une distribution et vous accompagner si vous avez des soucis avec cette distribution.
Donc, petit message de service, ça n'a rien à voir avec les centres de rencontre de libertinage. Vous n'êtes pas obligé d'être tenu, on ne vous demande pas votre mensuration.
Mais c'est très juste bien, c'est clair, parce que déjà vous rencontrez d'autres personnes
qui ne sont pas tout nus.
Vous pouvez boire des... Ils sont barbus, c'est tout. Et non, et voilà, ça vous permet d'échanger. Et comme je vous dis, vous avez tous les niveaux. Vous avez aussi bien des barbus que des gens, mais complètement novices. C'est vrai que moi, je connaissais pas ce genre d'association. J'y suis allé à la base justement pour rencontrer des barbus. Bon, j'ai pas pu. Ça a pas répondu présent à mon appel.
T'as pas matché.
Non, ça a pas matché.
T'as fait que swiper à gauche.
C'est ça. Et tout compte fait, j'ai rencontré plein de gens formidables, on discute, on voilà, et ça me permet moi je contribue, je suis plutôt du côté je donne des conseils que plutôt pour l'instant je prends des conseils. Voilà. Bon, j'essaie d'humilité pour dire à un moment bon, ce serait bien de faire un deuxième groupe un peu plus high level, mais bon voilà, ça c'est autre chose. Mais voilà, je pense qu'autour de vous, si vous déjà vous voulez voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est un bureau, les différences, qu'on vous explique. Puis il faut bien commencer par quelque chose. Donc pourquoi pas vous faire accompagner dans la vraie vie. John en reste bouche bée.
Non, je suis en train de rechercher qui c'est que je devais accompagner.
Bah... Ah, ça t'est déjà arrivé, John, de justement...
J'ai mes deux mains prises.
Ouais, d'accord. Bon, lâche ce que t'as dans les mains.
Et je ne peux pas, sinon ça va tomber, c'est mon micro.
Ah bon, si c'est que ça va. Je croyais qu'il était bien attaché. Il est pas sur un socle d'ailleurs, ton micro?
Un socle un peu branlant.
Si. Il est branlant. Et en plus, c'est vrai, il est de travers.
D'ailleurs, ça vous est déjà arrivé de conseiller autour de vous un Linux et accompagner les gens?
Bah, moi, j'ai déjà installé. ouais. Pour d'autres, enfin pour ma famille.
D'accord.
Mais ou même pour ma femme, pour son école par exemple. Mais le problème, ouais. c'est que bah les PC ils sont installés, puis ils restent un peu en l'état, et puis 2 ou 3 ans après tu les retrouves, et puis il faut faire les mises à jour parce que il est pas de temps. Et c'est pour ça que tu dis il faut aller voir. Oui, effectivement, il y en a qui ont besoin de se faire aider, mais il faut aussi apprendre à se débrouiller petit à petit en installant soi-même, en mettant les mains dans le cambouis, en allant voir sur les sites, en allant voir dans les forums, en réussissant à poser les bonnes questions pour avancer dans ses problèmes. Et ça, on peut pas l'apprendre à la place d'un autre, quoi.
Oui, on est d'accord.
Pour faire simple, on doit servir de dictionnaire. Je m'explique.
Oui, explique-toi.
Une sorte de dictionnaire, par exemple, la personne qui ne sait pas dit bon bah comment je fais déjà, tu sais, pour m'afficher le truc noir où t'écris dessus. Tu dis ah bah ça s'appelle un terminal ou une console. Je donne un exemple bidon, mais c'est fait justement pour ça. Ou par exemple tu sais, quand on met en super roi, là, le root, là, je sais pas quoi, ça s'appelle un super utilisateur.
Incroyable!
Incroyable!
Mais si quelqu'un sait justement ce que c'est se mettre en route et en super utilisateur, c'est déjà quelqu'un qui a déjà tâté un peu de la ligne de commande.
Il faut se donner, pense qu'il faut se donner des objectifs. En effet, si tu dis, voilà, je veux apprendre Linux, ok, je l'installe. Tu veux faire quoi? Tu veux aller où? Voilà, il faut se donner des objectifs. Je pense que le premier objectif, c'est installer Linux, aller sur Internet, regarder YouTube. Ok, ça c'est l'objectif de là-bas. Puis
non,
derrière.
Pas YouTube.
pire tube.
Non, mais et pour ça, je pense que des distributions non, comme Mint ou Ubuntu, elles sont déjà clés en main. Déjà, tout va fonctionner. Il y aura pas mal de logiciels déjà préinstallés ou disponibles sans avoir à aller trifouiller dans la ligne de commande et avec des mises à jour qui sont proposées automatiquement. Donc, globalement, pour l'utilisateur lambda, il y a moyen de se débrouiller sans avoir à aller farfouiller, comme toi t'as fait d'ailleurs au début. T'as pas besoin d'aller savoir l'arborescence, comment ça fonctionne, d'aller ouvrir des terminales pour savoir un petit peu aller dans les tréfonds de l'ordinateur. Tout fonctionne tout seul, quoi.
Ouais, faut pas en avoir peur de Linux tout compte fait.
Non, voilà, il faut pas en avoir peur parce qu'il y a des versions qui fonctionnent toutes seules. Après, l'avantage, c'est que globalement, c'est un gros Lego qui est déjà monté et dans lequel on peut changer toutes les pièces qu'on veut. Sans faire trop de bêtises parce qu'on peut aussi tout casser. Alors que Windows va te dire non, t'as pas le droit.
Moi, je m'en suis servi Linux pour protéger un utilisateur qui était mon père. Je crois que je l'ai déjà raconté, mais je vais de nouveau la raconter. C'est à l'époque où Windows 7 passait à Windows 10. Donc, mon père me demandait, est-ce que je suis obligé de passer à Windows 10? Ben oui, parce que Windows 7, il y a un moment où il sera plus maintenu, ça deviendra un danger, tu pourras recevoir des virus, enfin blabla, habituel. Donc, il passe sous Windows 10. Et puis, je crois que 2 mois après, derrière, il y a eu une grosse mise à jour, parce que forcément, il était sorti prématurément. Et là, ça a planté le boot. Windows 10 ne voulait plus démarrer. Donc là, je dis, bah écoute, il va falloir réinstaller Windows 10. Et là, je sais pas pourquoi, il s'est mis en colère en disant, oh, tu me vires ça, tu m'installes autre chose, mais je veux plus ça. Ah, bon, help. Il est pas informaticien, il pige rien à l'informatique. Lui, ce qu'il fait, c'était du money, Microsoft Money. Il allait sur Internet, il regarde des vidéos YouTube, fait du PowerPoint, et puis de temps en temps, il faisait du Word. Non, j'avais déjà installé LibreOffice sur Windows. Voilà ce qu'il faisait. Donc, tu te dis, merde, Linux. Et là, je commençais un petit peu à transpirer en disant, merde, ligne de commande pour mettre à jour tout ça, non, ça va pas être possible. Je peux pas lui indiquer ça, je peux pas lui dire ça. Et à force de tourner la solution dans tous les sens, j'ai dit, après, du Mac, ouais, pourquoi pas, mais mon père, c'est pas Crésus, donc non, c'est pas possible non plus. Help, je sais plus. Et donc, j'ai dit, bon, je vais tenter le coup. Vu que je commence à être à l'aise sous Linux, je vais quand même tenter le coup, en sachant que mon père habite quand même à 400 km de moi, donc s'il a un souci, ça devient vite compliqué. Donc j'ai tenté le coup, j'ai dit, je pense t'installer ça. Donc lui, il me demandait s'il allait retrouver ses programmes et tout ça, et là, deuxième goutte qui tombe derrière le dos, tu fais, oh putain de monnaie. Comment on fait pour monnaie? Et mon père est plutôt jeune, donc lui changer des habitudes, là c'est plus que des habitudes, c'est lui apprendre de nouveau un logiciel, tu fais, et puis surtout quel logiciel, quoi. T'es là, tu fais, mais pourquoi il y en a autant de logiciels de compta? Donc t'essayes vite fait en deux minutes tous les logiciels de contact qui existent. Tu dis non, ça va pas parce qu'il saura pas faire ça, machin. Et puis là, tu dis allez, lui il va très bien. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis tombé sur Scrooge, qui ressemble grosso merdo. Enfin, il y a quelques différences qui sont un peu incompréhensibles d'ailleurs. Bon, bref. Et donc j'ai fait le pari de lui installer. Alors au début, j'étais parti sur Fedora en disant ben moi je suis sur Fedora, donc je commence à maîtriser. S'il a un souci, je sais à peu près où il faut aller, etc. Donc je pourrais l'aider, je pourrais le guider. Donc je lui installe Fedora. C'est ce que j'ai fait et ça a marché. C'est-à-dire que lui, il a jamais eu besoin d'ouvrir un terminal. Il allait sur Internet, il regardait ses vidéos YouTube, il pouvait utiliser LibreOffice. Il a réussi à rentrer sa compta dans Scrooge. J'ai même pu réimporter ce qu'il avait dans Monet. Ça allait pas mal. Et puis au bout du compte, cet été, j'ai eu un petit remords parce que son Fedora était pas à jour depuis un bon moment. Je pense que Fedora, ça va trop vite pour lui. Donc vu que je commençais à maîtriser Debian, j'ai dit bon, je te bascule sur Debian, mais je vais être obligé de tout réapprendre et tout ça. Non, t'inquiète pas, tu retrouveras exactement la même chose. Donc lui, il y voit que du feu. Pour lui, Fedora ou Debian, c'est le même bureau, c'est les mêmes icônes, il va au même endroit. Et c'est parfait, ça marche très bien. Voilà. Et je prends même la main à distance via SSH. Je me suis ouvert une connexion SSH à distance. Et comme ça, des fois, je lui pousse des paquets pirate, ou des choses comme ça. Pirate, comment? Dis rien de quoi?
Pirate.
Ah, pirate. ça s'appelle des portes dérobées. Non. Je le préviens quand je me connecte.
Tu sais que tu peux mettre les mises à jour automatiquement dans Debian?
Oui, et c'est ça qui est magnifique, c'est que ça marche dans Debian, les mises à jour. Donc, les mises à jour se font toutes seules.
Oui, en arrière-plan, tu vois rien qui se passe.
Sur Fedora aussi, ça marche, sauf que t'es pas sûr de récupérer ton bureau, c'est tout.
Et donc, je me suis dit, oui, même pour des novices, ça marche. Et au contraire, il me dit, et l'antivirus? Mais tu veux installer quoi? Tu sais installer un truc? Ah non? Ben voilà, donc c'est parfait, c'est nickel. Tout va bien. Donc j'ai plus le souci, parce qu'un jour, oui, il m'appelle, il me fait « j'arrive pas, je voulais installer ce programme pour voir ». Je fais « oui, dis-moi ce que c'est, machin.exe ». D'accord, c'est très bien, tu peux pas le lancer, c'est très bien, c'est parfait.
Ah, si tu lui mets Wine, il peut y arriver. Hein.
Oui, mais non. Donc, ça évite de faire des bêtises. Si t'en as pas besoin, si ça marche pas, tant mieux. Voilà, je suis très, très, très content. Et donc, pour les novices, oui, ça marche. Et là, en effet, je suis un peu comme toi, Fabrice, c'est que je suis en train d'installer du Xubuntu, parce que c'est des vieilles machines, à l'école de ma femme, parce que elle a des Windows encore en Windows XP. Que la mairie ne veut pas financer de nouveaux PC, que moi il est hors de question de craquer quoi que ce soit. Donc je lui dis, il est hors de question que tu restes sur du XP, c'est vieillissant, vous allez sur Internet. Alors moi, ce qui me gêne, c'est que l'éducation nationale a beaucoup de petits programmes compilés par des profs, etc. Je lui dis ça, tu risques de le perdre. Alors on a fait une liste de programmes qu'elle utilisait. J'ai de la chance, c'est des trucs qui sont full web, qui marchent je suis tombé sur des trucs en flash d'ailleurs. Et ou avec du Java. Donc je fais nickel, ça marche au Xubuntu. Et c'est parti, là je suis en train de transformer son parc en Xubuntu. Voilà. Donc Linux, c'est même fait pour les débutants, c'est magnifique.
Et alors moi, l'avantage, c'est que ma femme, elle me dit que, avant, elle est dans une école, dans une classe maternelle, donc les enfants, ils laissent traîner leurs pattes sur le clavier, ils bricolent tout. Et avec Windows, ça plantait régulièrement, parce qu'au bout d'un moment, l'ordinateur, il comprend rien. Mmh. Mais sous Linux, il n'y a jamais de plantage, jamais de problème.
Donc, elle dit pas ça, ta femme?
Pignore. Selon la mon espion.
Ouais, mais non, je pense c'est une bonne. En effet, il faut avoir une connaissance qui y connaissent pour pouvoir débloquer une situation qui serait légèrement bloquante. Mais je pense qu'au quotidien, ça peut un novice peut utiliser Linux sans souci.
Ah, utiliser, ouais. Même, je pense que c'est plus facile de quelqu'un qui a qu'une utilisation bureautique, internet, etc. Qui a pas besoin d'installer, qui s'est pas installé, tu lui mets ça, il va s'en sortir très bien, et il sera en sécurité beaucoup plus que sous Windows, où il y aura des choses un peu bizarres qui vont arriver, qui vont être...
Oui, parce qu'il n'y a pas de risque d'installer de mauvais programmes, tout compte fait.
Oui,
enfin, d'installer de programmes tout court, même.
Oui.
Mmh. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense, John?
Tu peux toujours en installer. Après, c'est sûr que le côté sécuritaire est lié, oui.
Mmh.
Tout ce qui est... petit message comme il y a eu pendant un moment sur le web, tu sais, où on dit ton Windows est bloqué. Et là, tu rigoles, tu dis, attends, j'ai un Linux, moi, tu me prends pour un con, là. Hein? Sauf que le problème, c'est quand t'as vraiment Windows, que ton PC veut pas fermer la fenêtre avec ton Microsoft Edge, hein, que tu demandes à Cortana et qu'elle te dit, que puis-je vous aider? Que puis-je faire pour vous aider? Que puis-je faire pour vous aider? T'es en train de commencer à l'insulter, à lui dire, mais réponds-moi, connasse, je te demande pas ce que tu peux faire, je suis en train de te demander, justement, ce que tu peux faire. Et ben, avec Linux, c'est génial, ce n'est pas comme ça.
Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Voilà. Denis voulait rajouter quelque chose sur les dysfonctionnements.
C'est génial, bourrage papier, ça indique carrément ce qui déconne.
Voilà, tout à fait. Sauf que des fois, ça te met pas ce qui déconne, ça te met juste en train d'essayer de te carotter quelques petits sesterces.
Au fond, peu importe.
Voilà, au fond, peu importe.
Bon, est-ce que vous voulez rajouter des choses sur les distributions ou...
Moi, je peux détailler un tout petit peu sur les différentes versions de Debian.
Ouais.
Donc, en fait, Debian, de base, c'est sur une version stable. C'est un système qui est fait notamment pour des serveurs. Donc, c'est une version qui va pas changer très souvent. La mise à jour, en général, c'est tous les 2 ans, hein, une montée de version. Mais y a moyen de passer à une version supérieure qui va être mise à jour beaucoup plus régulièrement. C'est la version testing, qui est la version qui est en cours d'essai, en cours de stabilisation. D'ailleurs, c'est sur cette version-là que souvent est basé Ubuntu.
Alors attention, parce que tu dis stabilisation et testing, attention parce qu'il y a la version aussi unstable. Hein.
Ouais, mais attends, j'ai dit bien.
Ah pardon, excuse-moi, je vais trop vite.
Et il y a le niveau au-dessus qui est comme Arch Linux, c'est-à-dire la unstable, où il y a tous les paquets en dernière version qui sont directement mis dans la distribution. Donc là, par contre, les mises à jour, c'est tous les jours plusieurs centaines de mégas. Hein. Si t'es 2 semaines sans faire les mises à jour, c'est fini. T'en as pour des heures. Et puis, tu risques de casser, enfin, entre guillemets, de casser plus facilement ta distribution, sachant que les problèmes sont réglés en général dans les 48 heures, si problème il y a. Mais ça tout dépend en fait de l'état de fraîcheur des paquets qu'on souhaite. C'est-à-dire que si on veut avoir absolument les derniers logiciels à jour, on va s'orienter plus vers une distribution qui fait beaucoup de mises à jour. Si on voit pas de différence entre un LibreOffice 5 et un LibreOffice 6 dans ce qu'on fait, on reste sur la version stable et tout va bien. Et la petite nuance que j'avais apportée tout à l'heure, c'est qu'il y a des paquets qui sont backportés dans la version stable. C'est-à-dire que par exemple LibreOffice, en général, au bout de 2 ans, il y a eu une nouvelle version qui est sortie. Si on veut vraiment avoir la version plus récente, on passe par les paquets backport, où c'est valable aussi pour les drivers vidéo qui évoluent très vite. Et on peut utiliser des versions plus récentes de logiciels sur la version stable. Sachant que il faut pas passer tout en backport, sinon ça va foutre le souk, quoi.
Oui, tu déstabilises la version principale.
Voilà. Voilà. Et puis après,
Raspbian, le système d'exploitation de Raspberry Pi est un dérivé de Debian.
Oui, il fonctionne exactement pareil. Bon, il y a quelques petites différences de paquets, mais globalement, c'est.
Bah déjà, c'est compilé à ARM au lieu d'Intel.
Oui, bien sûr. Sachant que en fait, Debian c'est la distribution qui est portée sur le plus de machines différentes.
D'accord.
Et qui contient le plus d'environnements différents. C'est vraiment une distribution où on trouve le plus de choses. Et c'est très communautaire. Après, c'est la différence entre les différentes distributions, c'est que derrière Ubuntu, il y a par exemple Canonical qui est une entreprise. Derrière Fedora, c'est pas vraiment Red Hat, mais c'est Red Hat qui met ses paquets les plus frais à disposition pour la communauté pour tester justement.
Ça y est, ça m'est revenu la distribution Windows. Donc c'était un dérivé de Debian justement, et ça s'appelait au début Lindows. Après, ça s'est appelé l'Inspire. Mm-hmm. Et quand ça a coulé, il y a une branche free qui est apparue qui s'appelait Freespire. Mm-hmm. Et après, c'est mort. Voilà.
Oui, c'est vrai, ça me revient.
Ça y est. Mais c'est vrai que Debian a fait beaucoup, 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 beaucoup de petits. Et on peut citer Kali, Ubuntu, forcément, avec toutes les dérivées d'Ubuntu. Commodore OS, The Revival, mais il est mort, lui. Il y a eu... qui c'est qu'il y a eu encore attends, je suis en train de relire mes notes. Après, ouais, des distributions un peu moins connues. Mais ouais, c'est vrai qu'il y en a eu énormément. Il y en a eu énormément. Voilà. Tu peux poursuivre, excuse-moi. Voilà, c'était la parenthèse.
Non, bah, je crois que j'avais fini. Je parlais des backports. Mais je pense que tu avais une question particulière là-dessus ou... bah, le seul problème, c'est que... Ouais, ouais. Après, il peut y avoir des problèmes de conflit entre paquets si on a installé une version backportée qui a besoin de certaines dépendances et puis quand on a d'autres logiciels qui ont besoin des dépendances stables, ça commence à mettre le soupe, quoi.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il faut des commandes complémentaires pour faire du backport alors que ça pourrait être simplement un dépôt complémentaire. C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Alors c'est un dépôt complémentaire, mais par défaut il te met la version stable. Il faut lui préciser, surtout en ligne de commande, que tu veux prendre la version du dépôt backport.
D'accord.
Sachant que en fait même ceux qui jouent vraiment avec avec la distribution, ils peuvent mettre tous les dépôts, ils peuvent mettre le dépôt testing, le dépôt unstable et aller piocher à droite à gauche, mais au bout d'un moment ça devient un peu le soupe, quoi. Enfin, il faut vraiment faire gaffe avec ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on peut aller installer un logiciel qui est en testing ou qui est en unstable, mais si t'as réussi à choper les dépendances qu'il faut, et après quand t'as un autre logiciel qui veut se mettre à jour, il va parfois pas trouver, ses petits, quoi.
D'accord. Donc je crois qu'on peut conclure, on regrette pas d'être passé sous Linux tout compte fait.
Ah bah non, ça c'est sûr que je reviendrai pas en arrière, ça c'est sûr.
John?
Je réfléchis.
Tu réfléchis. Le pour, le contre.
Le bien au contraire.
Bah, juste une question à oui. Vous deux. Est-ce que sans Windows chez vous, est-ce que parfois ça râle un peu? Ouais, mais moi j'aimerais bien installer ce truc-là et sur Windows, ça y est. Et moi je veux jouer à ça et ça y est pas sur Linux et machin, un truc.
Oui. J'ai une petite boîte à côté de moi où c'est marqué Lego Worlds. Je maudis cette boîte. C'est un jeu qui fonctionne sous Steam. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, Steam, ça fonctionne sous Linux. Eh ben non, le jeu ne fonctionne que sous Steam, Windows.
Même avec Proton?
Ah, j'ai pas essayé avec Proton.
Il me semble qu'il est...
Proton, tu peux installer même des jeux qui sont pas sur Steam.
Il me semble qu'il est compatible Proton.
Proton. Eh ben, je vais noter ça, je vais vite essayer.
Dans Steam, tu vas dans les paramètres et tu fais activer Steam Play. Et après, bon, tout ne marche pas, mais il y a certains jeux Lego qui marchent sans problème.
D'accord.
Parce qu'avant, moi, je passais par Wine pour faire tourner Steam, pour pouvoir faire tourner certains jeux Windows qui marchaient sous Linux par Wine. Mais bon, c'est un peu alambiqué, ça marche pas toujours. Voilà. Mais avec le Proton, là, c'est vraiment nickel.
En plus, t'as pu te prendre la tête. Le changement de clavier, il est pris en compte. Donc, t'as pas à prendre la tête à trouver un clavier QWERTY pour pouvoir jouer normalement. Ou ce genre de déconvenu que tu pouvais avoir avec Wine qui refusait de te changer ton clavier.
D'accord.
Et moi, bah, on a un Windows à la maison. Mais moi, le mien, enfin les miens, c'est Ubuntu.
Il sert à quoi, le Windows?
Bah, d'autres choses, mais il n'y a pas de jeu, s'il y a du LibreOffice dessus.
En fait, qui utilise Windows pour faire quoi, en fait? C'est ça ma question.
C'est madame. Faire des PowerPoint.
D'accord, parce qu'elle est réfractaire à Linux.
Non, parce qu'il a été livré avec Windows 10, et que voilà.
Et elle a besoin de PowerPoint à son boulot ou?
Non.
Non, c'est pour regarder les PowerPoint qu'on
peut faire. Parce que ça fonctionne sous Impress, ça fonctionne, hein, les PowerPoint.
Ouais, je sais pas, je sais qu'on a mis LibreOffice dessus et voilà.
D'accord.
Parce que si elle utilise LibreOffice, tu peux la mettre sous Linux, ça sera pareil. Hein.
Ouais, mais voilà, puis comme ça, quand il y a des programmes, au cas où il y a besoin d'un programme précis.
Écoute, c'est la Saint-Valentin, on va pas mettre de l'eau dans le gaz. Ouais. Tu te rends compte de la conversation du 14 février? Bon, je vais t'installer Linux en fait à la place du Windows, mais tu te fous de moi là.
C'est ton cadeau de Saint-Valentin.
Non, ben moi chez moi, ben comme je te disais, le seul Windows que j'ai, c'est sur mon ordinateur professionnel, et après c'est l'ordinateur donc de madame. J'essaye de la convaincre, mais elle a ses habitudes, elle a peur du changement concrètement. Tu vois, elle a fait un effort parce qu'elle va passer sous Xubuntu à l'école. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de... Voilà, en fait, c'est son confort. Après, en effet, l'ordinateur a été livré comme ça, donc c'est pas un Windows pirate. Donc voilà, il n'y a pas plus à dire. Après, c'est les enfants, en effet, au niveau des jeux, etc. Mais bon, vu qu'on les a toujours éduqués dans cet esprit-là, en disant, de toute façon, un ordinateur, c'est pas fait pour jouer, ça coupe vite à la conversation.
Ah, merde. On m'a pas prévenu, moi.
Attends, ils ont une Wii U, c'est déjà beaucoup. Et voilà, donc ils ont ça pour jouer. Et si, ils ont des DS, ils ont des tablettes Android. Donc quoi, tu vois, ils ont plein de moyens de jouer. Donc stop. Hein. L'ordinateur, c'est pour aller sur Internet chercher des infos. S'ils ont des... En plus, on leur a donné des vieux PC où tu peux pratiquement rien lancer dessus. Donc voilà, tout va bien. Bienvenue chez Cédric. Welcome. Donc non, plus de Windows, puis je reviendrai pas en arrière. Non, aucun intérêt. J'aime bien savoir ce que je fais. Alors en ce moment, je galère
même énormément. Avec les Insiders.
Les Insiders, c'est quoi les Insiders?
Le programme Insider de Windows 10.
Figure-toi que je suis inscrit à un programme Insider.
Bah moi aussi.
Je crois qu'on s'est tous inscrits.
C'est mon seul moyen de pouvoir installer 2000 VM.
Ah oui, d'accord. Oui, forcément, oui.
Parce que du coup, maintenant, mon compte Microsoft, il est relié avec ma licence.
D'accord.
Que j'ai eue quand j'ai acheté mon ordinateur prémonté. Mmh.
D'accord.
Donc du coup, ma VM, elle tourne sur ma licence.
Insider.
Mon ordinateur de base, avec l'Insider.
T'es un voleur, en fait.
Ah ben non, j'utilise, et puis concrètement, c'est toujours le même ordinateur que j'utilise, hein, sauf qu'au lieu de le tourner Windows directement, il tourne dans un environnement presque fermé, en virtualisation.
Oui, mais vu que tu fais rien dessus, c'est bon, ça va, y a pas de problème, tu vois le personne tout compris.
Si, je lance iTunes.
Ah oui, mais arrête de donner des thunes à eux.
Hein, et puis en plus, j'ai dû lancer pendant 2 jours presque non-stop pour qu'il se mette à jour.
Oh punaise.
Juste pour faire des commentaires. D'où les 5 étoiles sur iTunes. Et bientôt, vous nous aurez sur iTunes.
Ah oui, la période des papas manchots sur iTunes. Ah là là.
Faut tanner des cas.
D'ailleurs, il faut qu'on lui installe Podcast Generator sur le site web dans une partie à part juste pour iTunes.
Hein? Je t'ai pas compris, excuse-moi.
Je connais pas Podcast Generator.
Si, bien sûr, c'est comme ça que tournent mes podcasts, mais j'ai pas compris.
C'est pour ça que tu m'as fait peur. Ben, l'installer sur le serveur d'Oncle Vert, sur une partie annexe, pour iTunes.
Non, mais en fait, mais on parlera ça à un autre moment. Mais c'est un problème de publication. En fait, il faut aller sur iTunes et publier votre lien RSS. C'est comme ça que ça fonctionne.
Non, il est pas bon.
Oui, mais il est doublé avec le RSS.
Il faut passer le lien RSS du PodCloud. Ils sont bien convertis.
Bon, on en reparlera.
Ouais, c'est de la tambouille interne.
Ah, ok. Ah.
Moi, c'est comme ça que j'ai fait, moi.
Bon, ok.
Bon, une petite blague, John?
Ah oui. Je suis désolé pour la blague précédente, je l'ai foirée. Je suis désolé.
Hibou?
Comment?
Non. Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux qu'est-ce que fait un hibou quand il se pète une jambe?
Je sais pas.
Vous savez pas?
Non.
Eh ben, il bouette.
J'ai pas compris la blague.
Il bouette. Ouais, ok. Bon, elle était moins bonne que celle du mois passé.
Du caca, ouais. Je préfère le caca. Hein.
Tu es plutôt scatophile.
J'adore.
Alors, c'est l'histoire d'un manchot qui se gratte le fion et il en ressort des clés USB. Ah non, ça c'était dans le Burger Tech. C'était un cachalot. Non, c'est pas un cachalot. C'était un lion de mer.
Je comprends pas tes blagues. C'est trop tard.
Le jeu de mer qui a été retrouvé avec une clé USB dans ses
serres. Ah oui. Ah, je me souviens pas. Si, si, il y a une news là-dessus. Mais non, c'était pas dans BurgerTech.
Ah non, ça me dit absolument.
J'ai vu passer le tweet. J'ai vu passer le tweet.
Je pensais qu'il allait la mettre, celle-là, dans le prochain.
C'était Captain Web qui avait passé, qui avait fait un tweet là-dessus, non?
Oui, en disant
tout, tout va bien. C'était une news d'un lion de mer. Ouais, c'est ça. Dans lequel on a retrouvé une clé USB contenant des photos de lion de mer ou je sais plus. Enfin, bref. Donc c'était assez drôle. C'est une news qu'il faut absolument reprendre dans le BurgerTech.
Ah ouais, 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 punaise, d'accord. Waouh.
Faudra ça ira bien après la fuite de l'ISS.
On fera un bulletin.
Après le pipi, il y a le caca.
On fera un bulletin spécial, tu sais, avec une bonne annonce comme ça.
Bulletin spécial.
J'ai cru que t'allais mettre... c'est du même film, je crois. C'est qui le patron?
Non, là, le spécial, c'était le cinquième élément.
Ben oui. Le cinquième élément.
Et c'est qui le patron? C'est qui le patron?
Non, je déconne, c'est un truc en français.
Tu sais, John.
C'est la meilleure émission que j'ai jamais faite.
Ah, j'ai pas entendu le début.
Ah, il disait simplement que c'était la meilleure émission que j'ai jamais faite. Voilà.
Ouais. Voilà. Je me dis ça tous les soirs.
Bon, on va conclure là.
Ouais.
Parce que je sais pas combien on en est en une heure quarante. Ouais, ça c'est va. Bien.
Sans c'est compter bien. Les blancs.
Ouais. Sans compter les blancs. Mais vous avez un coupeur automatique de blanc?
Ouais, on peut activer un peu, mais des fois ça coupe.
Cas, mais là il va changer, il va s'appeler Fabrice.
Ça coupe trop vite.
Ouais, des fois ça coupe trop vite. Alors ouais. Ça va pas bien.
Ouais, ouais, l'audio c'est un peu compliqué. J'en connais un bout. Bon, on aurait pu parler en effet encore de plein de choses, mais on n'est pas motivé, je crois.
C'est surtout que pour un 14 février, on va pas aller se coucher trop tard quand même. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est clair. Moi, on m'attend.
Quand ma distribution m'appelle.
Pour l'anecdote, le BurgerTech, donc c'est l'émission que l'autre podcast que je fais avec mon pote Gaëtan, on l'a créé un 14 février. Voilà, ça veut tout dire. C'est symbolique. Voilà.
Donc tu trompes Gaëtan un jour de Saint-Valentin. Tu double trompes ta femme donc.
Ah mais
tu trompes à la fois ta femme et tu trompes Gaëtan.
Non, il était pas dispo.
Parce que peut-être qu'il va aller au McDrive après.
Il était pas dispo, lui il trompe pas sa femme peut-être.
Il m'en a raconté. Bon, ça va. Il y a pas de lien à Thunes, d'accord, pour l'apéro des papas manchots, donc il peut pas écouter ça. On peut se moquer de lui pour l'instant.
Ah, fais gaffe.
Ouais,
parce
il peut télécharger quand même les fichiers.
Il y a eu le PodCloud.
Ouais. Non, on n'est pas sur PodCloud.
On va aller vérifier les flux.
Si, on est sur PodCloud.
Sérieux?
Ouais.
Là, on est partout, même Spotify.
Oh, la classe. Il faut annoncer tout ça. Il faut mettre des liens. Encore. Faut mettre des liens.
Mais on a mis l'auditeur, je te rappelle.
Oui, c'est vrai. Non, mais j'aimerais voir vos logs un jour parce que je pense qu'il y a un problème.
Ouais, mais tu demanderas à Deka, il te les enverra. Moi, j'y crois pas trop, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de, je sais pas, de moteurs de recherche qui doivent télécharger des trucs.
Voilà, on est des vrais barbus. Et du coup, comme on a 12 machines par auditeur, déjà.
C'est vrai.
Mais c'est vrai que moi, déjà, je la télécharge en double.
Non, mais il faut faire gaffe, parce que
quand
là, justement, pour les 1 an, j'ai fait les stats de Burger, et en regardant, j'ai fait une moyenne, et à peu près par... Alors, il y a les hits, donc c'est le nombre de pics qu'il y a eu sur le serveur, mais après, t'as l'utilisateur, l'IP unique. Et en effet, je divise déjà par 2 le nombre. Donc, voilà, il faut faire gaffe à ça. Après, je sais pas s'il regarde ses stats sur le fichier MP3 ou de manière globale.
Bah, enfin, y a quand même le volume de téléchargement qui est de 5 gigas tous les mois, à peu près, hein, je pense.
Ah, quand même.
Donc, c'est
pas
déjà
mal.
Pas mal. Pour un fichier qui fait un peu moins de 100 mégas par épisode.
Ouais, ouais.
Donc, c'est pas mal. C'est téléchargé.
Écoutez, l'apéro.
Bon. Bah, on va se laisser là-dessus.
Ouais, je crois en plus les news arrivent en plus.
Quand c'est bon.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Je suis jaloux, moi ça marche pas.
Tu viens,
ça marche pas.
Tu viens faire tes tests avant de mettre ça dans Burger Tech.
C'est voilà, c'est ma nouvelle bibliothèque que je vais pouvoir mettre dans Burger Tech.
C'est ton bac à sable.
Ah, complètement. Bon, bah, c'était un plaisir de. J'espère que j'ai bien animé cette émission.
Aussi bien que Burger Tech, sans problème.
Non, j'ai évité de faire des blagues. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur le blog de l'apéro des papas manchots. Donc, c'était l'émission numéro 27. Les commentaires sont ouverts à tous et à toutes. Sur le compte Twitter également. C'est quoi déjà? C'est
Don Kluivert.
Don Kluivert. Et c'est pas facile, hein. Mais vous faites pas les choses facilement.
Non, je critique. Soit on est barbu, soit on n'en l'est pas.
Je critique tout de suite.
Plus voilà. On dure, mieux c'est.
Voilà. Il faut mettre
un petit peu de Saint-Valentin.
Oui. Alors vous cherchez Apéro des Papas Manchots et Twitter et arrive à retrouver le compte facilement. Ben, on va fermer cet apéro. D'ailleurs, on n'a pas dit ce qu'on buvait ce soir, mais parce que je pense qu'on n'a pas encore.
On a dit on commence. En plus, vous êtes arrivé en retard, donc j'ai pas eu le temps d'ouvrir ma bière.
Non. Tu l'ouvriras
que je n'avais pas dans le frigo.
Et ben, en plus, toi, elle était chaude, donc on t'a épargné ça.
Non, parce que si tu rhum, ça se boit chaud, monsieur.
Oh. Non, avec des glaçons, avec des bons glaçons. Bonne continuation, à la prochaine et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.
Ouais, salut.
Allez, bye bye.